game.
Okay. 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 On va la faire courte. Off courte. Le podcast des basketteurs. Ah bon, ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à base de clash entre les joueurs, coach, bizutage rookie, vision politique et sociétale, et j'en passe. Off courte. Présenté par Smooth Smooth, là, qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready pour Off Court. 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 Off Court.
Ouais, 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 ouais. Salut tout le monde. Bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle balling. Aujourd'hui, je reçois un personnage de notre championnat français. Un mec qui, je crois, dans le don de soi, ne fait pas d'économie. On a pu le voir en 5-5, on a pu le voir en 3-3, c'est un mec entier, c'est un mec en or. Je parle bien entendu de Antoine Eto'o. Comment vas-tu ?
Ça va, tranquille, merci, merci de me recevoir.
Merci à toi, malgré le petit périple que tu t'es tapé entre Chalon et Vichy, là. J'espère
ouais,
que ça a été...
Ça va, c'est pas trop, trop loin. C'est pas trop loin, ça va, ça va.
Ouais, cool, 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 cool. Alors, le podcast qui va se dérouler ce soir, c'est un peu... On va parler un peu de toi, de ton parcours, qui n'a pas été si simple. Tu t'es toujours retrouvé dans des situations où tu as dû prouver. Et j'ai envie que ce soit un podcast référence pour cette jeunesse qui arrive et qui, des fois, souhaite... réaliser ses rêves en étant basketteur professionnel ou voire même dans le basketball en amateur, tu vois. Je pense que tu as un exemple, tu es vraiment un exemple vis-à-vis de ces jeunes-là. Et on va apprendre à te connaître pendant un petit bout de temps dans une discussion sans filtre, dans la joie et la bonne humeur.
Sans problème.
Alors Antoine, on va parler un peu de ton parcours. On va commencer par ton parcours qui est grand, mais il n'y a pas forcément beaucoup de clubs.
Non, ouais.
C'est fou qu'on
parle. Il n'y a vraiment pas beaucoup de clubs.
Y a vraiment...
Après, ça dépend d'où tu commences aussi. Si tu commences de très jeune, pas jeune, juste la carrière pro, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup.
Aujourd'hui, on a un peu un regard où souvent, d'une année à une autre, tu changes de club. Donc, quand tu regardes un peu le CV d'un joueur, tu dis, ah, il a visité des clubs. Mais là, on voit que, en gros, ça a tourné entre trois clubs, voire quatre.
Ouais.
L'ASVEL, Vichy, Le Mans, Orléans et Chalon. Allez, et Chalon.
Et Chalon, 5.
Ça fait 5.
C'est le cinquième, là.
Ouais. T'es le type de joueur qui est fidèle.
Ouais, alors... après, j'ai un club de cœur qui est Le Mans depuis 2012 et les playoffs, où je peux rester, moi, j'ai fait 7 ans là-bas, etc. Après, au-delà de ça, c'est surtout que moi j'ai toujours aimé m'engager sur et en dehors du terrain dans les villes où je suis passé, dans les clubs où je suis passé.
Ouais.
Que ce soit passé correctement, moins bien, très très bien, pas bien du tout. Et donc, du coup, j'ai toujours fait plusieurs années. La seule fois où j'ai fait un an, c'est quand j'ai fait un an à Orléans pour revenir au Mans.
Au Mans, oui.
Mais après, j'y suis retourné 2 ans, donc au bout du bout, ça fait 3 ans quand même. Donc voilà, les projets aussi, disons que chaque étape dans ma carrière, à chaque, je vais dire, différents moments de ma carrière, ça a été lié à des challenges.
Mm-hmm.
Des challenges et des projets qui m'ont plu, déjà sportivement. Il n'y a qu'une seule fois dans ma carrière où je n'ai pas décidé, je n'ai pas regardé en fait sportivement, je suis allé là où le premier truc que j'avais, je l'ai regretté, c'était la seule fois. Et autrement, à chaque fois, à partir de cette année-là, c'était tôt dans ma carrière, j'ai dit, j'essaie de choisir des projets. Puis après, j'ai construit une famille, donc dans l'équation, la famille rentre aussi. Il y a plein de trucs, quoi. Il n'y a pas que ça. En gros, moi, j'ai toujours aimé les projets et rester plusieurs années. Et puis en vieillissant, tu cherches aussi un peu de stabilité quand tu as une famille un peu nombreuse, quoi.
Clairement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est souvent ce genre de joueur qu'on apprécie, ce genre de joueur qui ne s'arrête pas qu'au basket, qui s'investit énormément dans la vie d'un club et qui essaye de rendre, qui est qui est pro, quoi, en fait, qui est vraiment pro. Ouais. Parce que le pro, ça s'arrête pas à venir jouer, faire sa tambouille et partir. On est d'accord.
Ouais. Et ouais, on oublie souvent. Alors après, les... aujourd'hui, il y a un travail qui est fait, par exemple, par le syndicat des joueurs sur le rookie programme qui explique un peu tout ça, qui, moi, à mon époque, on n'avait pas ça. Mmh. Donc, ça, c'est des choses qui ont évolué, qui c'est positif, mais c'est vrai que, bon, on reviendra dessus, mais on voit que les générations ont complètement changé. Ça c'est sûr, mais qu'en effet ils sont maintenant c'est expliqué. Moi à mon époque c'était pas expliqué, tu vois.
Tu devais apprendre.
C'était aussi intéressant.
Tu devais apprendre.
Que en fait en dehors du terrain c'est important aussi. C'est très très important et voilà, chacun a un caractère différent, mais il y a des choses à faire pour un club en dehors de ton temps d'entraînement ou de match. Qui fait partie de ton job et que tu dois faire défaite, victoire, bon match individuel, mauvais match individuel, faut être constant là-dessus parce que c'est la moindre. Je disais un truc, c'est la grosse tendance NBA en ce moment, c'est que tu sais que beaucoup de personnes des fois prennent des billets, traversent le pays pour venir voir un joueur spécialement et des fois au dernier moment ils savent, tu vois par exemple il joue pas le mec,
ils
sont grave déçus. Bah, voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire que nous, même si t'es blessé, que tu joues pas, tu peux toujours être au contact des fans et des gens qui viennent te voir en étant blessé, en étant sur le côté et en intervenant en dehors de ton match ou de ta performance. Et c'est important, tu vois.
Ah, c'est très, très important. Et je vois que tu, même malgré le fait que tu n'aies pas eu de cellule comme la cellule du syndicat des joueurs pour t'apprendre comment réagir, bah, t'as su apprendre des anciens, je suppose, t'as su t'intégrer, et ça c'est aussi propre à l'éducation, j'ai l'impression.
Oui, ça l'est. Moi après j'ai des parents qui m'ont éduqué de cette manière aussi, et après j'avais des grands qui laissaient passer peu de choses, même si c'est vrai que il y a de tout si tu veux dans un groupe, mais la plupart étaient quand même assez professionnels en dehors. Et savait être proche des fans, du public et rendre, peu importe de quel, j'ai envie de dire, milieu il venait, que ce soit des gars qui venaient de Paris, de ghetto ou pas d'ailleurs, et ou à l'extérieur sur des petites villes, des mecs, peu importe, il y avait vraiment, j'avais vraiment beaucoup de coéquipiers, d'anciens qui savaient que c'était important d'être proche de. Enfin, au moins de répondre présent pour les fans et les jeunes qui viennent te voir. Et ça, c'est important. C'était multiculturel et multiclasse sociale, j'ai envie de te dire. Donc ça m'a aidé aussi, quoi.
Ah, c'est la magie du sport.
Exactement.
Le sport est un facteur social. Et donc, sans ce côté humain, le sport n'a pas cette magie-là, j'ai envie de te dire.
C'est tout à fait ça. Donc voilà, ça a toujours été plutôt... un truc que j'aimais bien, et que même si c'est difficile des fois quand tu perds ou que t'as coûté le match, ça arrive quand tu fais des mauvais matchs et qu'en plus tu perds, c'est le pire, mais faut arriver à très vite passer à autre chose et faire ton taf, quoi.
C'est clair, surtout quand tu peux apporter un sourire à un jeune ou à n'importe quel supporter qui apprécie ton geste, t'attarder, lui serrer la main, un petit mot, une petite signature, c'est toujours plaisant. On va parler un peu de ton départ, du départ de ton histoire. Comment un gars comme toi, qui joue en National 2 à Cognac à l'époque, se retrouve à l'ASVEL ? Et comment tu découvres ce monde-là ? Dans quel état tu es à ce moment-là ?
Ouais, alors on va pas faire toutes les anecdotes, mais j'en ai tellement. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que je sors de KD France à La Rochelle.
Ouais.
Vous étiez pendant 2 ans. On a fait une bonne saison, etc. Ils ont une N2 aussi, mais Cognac veut me récupérer. Mes parents veulent que je passe le bac à Cognac, donc je rentre.
Les études.
Ouais, exactement, j'avais 17 ans. Donc j'ai réussi, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à avoir un bac scientifique cette année-là, l'année de N2. Donc ça aide d'être aussi dans une petite ville, etc. De pas être dans une grande ville, ça aide, je pense aussi, parce que tu as moins de distractions, entre parenthèses.
Je pense aussi, ouais.
Ouais, et puis j'ai toujours été, depuis j'ai 6 ans jusqu'à maintenant, je suis un passionné futurieux du basket, j'adore m'entraîner, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai envie de m'entraîner, plus j'ai envie de jouer, j'adore. Après j'ai été à bonne école avec des gars comme Amara ou Johan, tu vois, les mecs c'est plaisir maximal quand ils jouent, tu vois.
Ouais, surtout quand t'as la tête au cercle.
Comment ?
Surtout quand t'as la tête au cercle.
Ouais, ça, exactement. Exactement, mais c'était vraiment Franchement, c'était une année de fou à Cognac parce que je me retrouve à jouer beaucoup en National 2 à 17 ans, à faire le derby contre La Rochelle justement quand j'étais à Cognac. Et en fait, l'anecdote, c'est il y a deux choses. Mon père a grandi avec Yves Baraté, qui était assistant coach de l'ASVEL.
De l'ASVEL, oui.
Et qui savait qu'il, si tu veux, ça c'est l'année où je suis à Cognac, il est assistant coach. Et il sait que Claude part et qu'il va reprendre l'année d'après. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un meneur titulaire espoir qui s'en va. Ils cherchent à recruter un meneur. Et ils ont besoin d'un meneur qui puisse aussi s'entraîner, qui le développe et qui puisse s'entraîner.
Avec le groupe pro.
Avec le groupe pro. Derrière Émeric Duhano et en gros un troisième meneur pro. Émeric Duhano et Yo-Yo. Et Johan Sangaré. Ouais, Carcasse.
Ah, donc, coup, ça sent les blazes.
Mais tu connais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on va jouer à Haute. Un match,
ouais.
Et comment il s'appelle, Yves Baraté, lui, il est de haut. Et donc, on va jouer là-bas. Et en plus, c'est un truc de fou. Le match, il finit en bagarre générale à la fin et tout. Truc de malade. Genre, à Auch, un truc de fou. Donc, moi, j'étais tout seul, machin et tout. J'étais derrière les gros et tout. Je dis, wow, c'est un truc de ouf. Ouais. Et donc, du coup, bah, Yves me dit, viens faire un essai. Je fais un essai. Et le jour de l'essai, je pense, je me suis mis de la pression de fou. Puis, l'ASVEL, c'était fou. Moi, il y a trois clubs dans ma. Quand j'ai grandi, c'était trois clubs. C'était Limoges, ASVEL, Pro. Les trois. Mais... Et les trois, ils se tapaient pour être champion à chaque fois.
Trois clubs légendaires. Et ça se battait.
Ben oui.
C'était entre les trois. C'était entre
tout
les trois.
Tout le temps. Ils se tapaient. Et moi, c'était plus. Je vais te dire. Alors, je suis du coin pourtant de Limoges. Enfin, je suis à 1h30 de Limoges, là, de Cognac. Mais c'était plus ASVEL et Pro que je regardais. Tout simplement parce que d'une année à l'autre, en fait, j'ai suivi un joueur que j'adorais qui était Moussonko. Et qui a fait. Je crois qu'il a perdu. Il me trompe pas. Il perd une finale avec Pau contre l'ASVEL. Il va à l'ASVEL l'année d'après. Et perdre la finale avec l'ASVEL contre un truc comme ça, je me rappelle.
Il gagne avec Pau et il perd avec l'ASVEL.
Ok, là il y a un truc comme ça. Voilà. En fait, j'avais suivi le joueur, je dis, oh, mais je continue à regarder, mais lui je le kiffe. Voilà. Après, je regardais Pau parce que je kiffais Roger Esteyer,
des gars comme ça. Il y avait du monde, hein. Il y avait du beau monde dans ces deux équipes.
Lukowski, il y avait des vrais gars, tu vois. Donc, bon, bref. Et donc, du coup, Yves m'appelle, il me fait faire un test, donc j'étais complètement, je pense, un peu stressé.
Normal.
Un peu stressé, tout ça, donc petite gastro. J'ai réussi quand même à m'entraîner, ils ont kiffé. Du coup, ils m'ont dit, l'année prochaine, viens. Je dis, ok. Et en fait, l'histoire, je n'irai pas plus loin, mais l'histoire, c'est que deux mois et demi après mon dernier match de N2, je me retrouve face à Tony Parker à jouer 15 minutes sur le NBA Tour. C'est-à-dire que Johan Sangaré blessé, Émeric Jeannot en équipe de France, j'ai joué 15 minutes contre Tony Parker. Le match de ASVEL, c'était Bruce Bowen, Gino Pili,
ASVEL San Antonio.
Et voilà, exactement, quand Amara, il met le poster sur Francisco Elson. Là.
Oui.
Et j'étais là, j'ai joué 15 minutes, et donc c'était fou, t'imagines le truc.
Ah mais dingue, en fait, ça commence fort quoi.
Ouais, c'était une dinguerie, je réalisais même pas moi, je suis arrivé, l'histoire aussi c'est que j'arrive en pré-saison, pour moi le basket c'était une passion, je suis arrivé, je te jure, j'étais la prépa, je suivais pas, je vomissais, j'étais à des années-lumière de ça, tu vois, je me suis dit moi si je fais une bonne carrière je vais jouer en N1, c'est bien, tu vois, je vais jouer à côté de chez moi et tout. Donc puis après l'appétit est venu mangeant quoi.
Ah clairement, et tu as bien mangé. Ensuite,
ouais.
Ensuite
ouais, je suis pas rassasié encore.
Ah mais... non mais ça se voit t'es pas rassasié. on va pas te mettre la prison sur la montée tout de suite hein. On va attendre la fin.
J'ai appris l'année dernière.
Et ensuite tu vas à Vichy.
Ouais donc en fait ce qui se passe tu fais trois ans à l'ASVEL. La troisième année. En fait, je fais 2 ans au départ, je fais la première année. Déjà, pareil, premier match de la première année où je sors de N2, je joue 15 ou 20 minutes contre Reims, parce qu'on gagne de 30, et le coach me fait jouer en pro. Donc la première année, j'ai fait 2-3 apparitions, c'était pas fou. La deuxième année, en deuxième partie de saison, j'ai fait beaucoup plus d'apparitions, parce que je me mettais en mission en défense, en fait, je défendais tout terrain comme un ouf pendant 5 minutes.
T'as compris, et t'as compris comment il fallait, pour, comment
en
il
fait,
fallait avoir
du temps.
Faire.
Voilà, tu passais d'une arbalète à shooter à un mec qui...
Un pitbull,
voilà. Je me suis mis en mental mode comme ça. J'ai dit, de toute façon, je vais y arriver que comme ça. J'avoue qu'après ma première année, Vincent Mazin, il m'a piqué en me disant, oh, tu n'y arriveras jamais, machin.
Ah, j'ai dit, ah ouais, okay. J'ai vu ça. En plus, Bang Bang, il est un peu là.
Bang Bang, il m'a dit, ah, tu n'y arriveras jamais.
Il a une grande bouche, le Bang Bang. Il pique facilement.
Bon, on en reparlera des générations actuelles où tu dis ça, les mecs des fois ils s'écrasent ou alors ils disent vas-y tu connais rien, moi je suis quelqu'un, alors qu'ils ont 20 ans. Mm-hmm. Moi ça m'a piqué, j'ai dit quoi, ils me disent ça et tout. Bon. Et du coup, à la fin de la deuxième année, je signe mon contrat pro à l'ASVEL, 2 ans. Donc là, petite histoire, c'est que Johan, il prend son téléphone, il appelle Vincent, il dit « Ah tiens, je te passe quelqu'un ». Il m'a félicité, mais il m'a dit « c'est que le début, hein, c'est que le début ». Donc, c'est sympa. Et donc, ma troisième année, donc on est champion de France avec l'ASVEL, en 2008-2009.
Avec Tangevic
le titre. Non, c'était Vincent Collet.
C'était Vincent Collet, ouais, ouais, exactement.
En finale, on gagne contre Orléans avec un vieux match, 55-46.
Un vieux score, je m'en rappelle bien.
Le MVP, quoi, c'est Amara avec 10 points. Enfin, bon, bref, c'était. Mais bon, on est champion.
Ah, c'est clair.
Et en fait, cette année-là, je joue, tu vois, tu as 12 minutes de temps de jeu sur l'année. 10 ou 12 minutes à 20 ans, tu vois. Ah. 20-21 ans.
Il y en a plein qui en voudraient 3... de ces 12 minutes, hein.
Bah oui, j'ai joué les trois quarts des matchs, je crois. J'ai dû en jouer entre 20 et 25 sur 34. Donc, c'était première année, t'es champion de France. Enfin, je veux dire, t'as joué, j'ai fait des matchs à 20 minutes. Enfin, tu vois,
t'as un rôle, quoi.
Voilà. Mais j'avais trop la dalle, en fait. Et c'est là le plus gros regret que j'ai, c'est que j'ai signé pas pour un truc sportif, j'ai signé pour dire peu importe où je vais, j'y vais défoncer. Tu es champion de France, je vais fournir. À l'entraînement, j'étais en mode, j'étais trop bien, mais j'avais pas compris que c'était pas que l'entraînement, pas que défoncer. Mais. Ça m'a aidé à me construire dans le duel, mais ça m'a coûté sur un an ou deux parce que derrière j'atterris à Vichy où je signe pour Vichy, c'est Jean-Louis Borg le coach, ouais. Et le meneur de jeu c'est Karim Reid.
Oh là là, t'es derrière un groupe très gros.
Attends,
joueur.
Mais moi Karim Reid quand je signe, je dis ouais, ok, c'est un meneur vikin, mais vas-y, il est vite fait, il est petit, il est machin et tout. Et là j'ai appris de ouf parce que c'est une carrière de fou, il sort du ghetto à Harlem. Pas un mauvais gars, tu vois, mais il parle tout le temps, il me parlait tout le temps. Il trash-talkait tout le temps, il dit « Hey, c'est cheese !» Tu vois, il mettait un panier, il dit « C'est cheese !» Ou genre, je passais dessous, il disait « Mais pourquoi je te shooterais pas dans la gueule ?» Il shootait, bam, il mettait, tu vois, il parlait. Mais pas un mauvais gars, mais il parlait. Du coup, ça m'a forgé, et surtout sportivement, en fait, j'ai fait ma plus grosse erreur parce que j'ai pas regardé le côté sportif. J'ai dit vas-y, une veste, c'est une petite équipe. Et j'ai fini à jouer 9 minutes par match et en me blessant les deux derniers mois. Et ça s'est très très mal passé avec le coach. Très mal. Et du coup, ça m'a niqué, quoi. Donc,
c'était
la première année. Comment ?
Ça t'a coupé les ailes.
Ouais, ça m'a coupé les ailes. Mais j'avais toujours faim, mais je dis vas-y. Ça m'a piqué, tu vois. Donc. L'intersaison, il cherche à se séparer de moi parce que j'avais 2 ans. Et du coup, il ne trouve pas. J'ai Frédéric Sarr qui m'appelle pour aller à Strasbourg, mais au dernier moment, Steve Essar re-signe, donc il ne prête pas. Donc du coup, je reste à Vichy,
ouais.
Et c'est Jean-Philippe Besson, le coach, un ami. On commence la première partie de saison, mon gars, on perd 13 des 15 premiers matchs. On est à 2-13 à la trêve. Donc on gagne le dernier chez nous. Il coupe Karim Reid. Et il me donne les clés. Et en gros, là, on gagne 9 des 15 derniers matchs.
On fait
9 sur 15. Il y avait Jamal Scheller, Thomas Laroukis, Nicolas Dejon, Demetrius Nichols qui a fait une carrière européenne.
Demetrius Nichols, oui, exactement.
Il y avait Franck Ellegaard. Il y avait Reece Gaines. Il y avait plein de gars forts.
Une petite question. Est-ce que c'est pas la même année où il y a. Comment il s'appelle ? Samuel Nadeau qui vient en plus chez vous ?
Non, c'était bien avant ça.
C'était bien avant, enfin, ok.
C'était avant. Moi, j'ai pas joué contre ou avec Samuel, non.
Donc, c'était avant.
Jamais, non. Mais c'était bien avant, en fait. Et du coup, cette année-là, on descend la dernière journée. On gagne contre les trois.
Ah, exact. Ouh là là,
c'est... Tu sais, t'as Paris qui met un buzzer à l'ASVEL. David Chambon, il va voir dans la vidéo, alors qu'il n'y avait pas la vidéo à l'époque, pour vérifier et tout, et on perd comme ça.
Ouais.
Il y a eu des trucs de fou cette année-là, tu vois. On gagne de 25 chez nous. Contre Paris, on perd 26 avec un buzzer d'Andrew. Enfin, voilà, on descend sur rien du tout. Et puis, mais c'était le chaudron à Vichy à l'époque, et voilà. Et on descend. Et voilà. Et du coup, là, c'est un peu mon côté humain et challenger qui a voulu rester. J'ai dit, vas-y, je pouvais aller en proie. J'ai dit, non, je re-signe 3 ans à Vichy pour de la Pro B, on remonte direct. Et là, catastrophe. Ça se passe que des blessés, ça prend pas. Il coupe le coach Jean-Philippe Besson. Il y a Laurence Carra qui arrive. Ça prend toujours pas.
C'est bon, je me rappelle de la période. Ok.
Voilà. Tu vois.
C'est la période des fameux requins et des dauphins.
Voilà, exactement. C'est ça. On signe un meneur Quinry qui s'entend pas avec. Qui était très fort. Eric Craven, qui était fort, qui avait fait une montée avec Dijon, un gaucher. Qui ne s'entend pas du tout avec le coach non plus, machin. Ça part en sucette. Et du coup, on descend encore. Donc, c'est 2 décembre d'affilée, là, ça a piqué fort.
Une question. Toi, joueur de caractère. toi, joueur de caractère, avoir un coach comme Laurent Ciara, normalement, on pourrait dire que ça match. Est-ce que ça a été le cas?
Non. Non, alors, je vais t'expliquer pourquoi. Après, c'est ma version aussi. En fait, moi, Laurent Ciara, on le joue en finale, en plus, contre Orléans en 2008. Et Laurent, et à chaque fois, Marin me dit, mais arrête de le regarder comme ça et tout. Et je dis, mais mec, c'est Laurent Ciara, t'es un ouf et tout, je kiffe trop son.
Amara, elle est trop Kaira. Amara, elle veut pas de ça.
Mais non, il me dit, arrête de le regarder. Donc, du coup, j'ai fait, tu vois. Mais ce que je veux dire, il me dit, ouais, pourquoi? Je dis, tu te rends pas compte, Amara, j'avais 10, 11, 12 ans, mon père, on regardait les matchs. Lui, il était là, je sais pas, il supportait la France, les finales de JO de Sydney, tu vois, tout ça, tu
clairement.
Vois.
Clairement.
Oh, et puis surtout, j'avais le mec super smart, intelligent, pas des comment on appelle ça, des aptitudes physiques de fou, mais grave, bon, genre un peu chien aussi, grave intelligent, qualité de passe plus, tu vois. Je dis, bon, il va m'apprendre, tu vois.
Un vrai IQ.
Voilà, et il va m'apprendre, j'ai besoin de ça. Et donc au début, ça allait plus ou moins et tout, et franchement, j'ai appris sur 2-3 trucs, tu vois, les systèmes, les machins, sauf qu'il a voulu faire des choses qui n'étaient pas possibles avec des joueurs de Pro B, en fait. Tu vois, c'est pas possible. Moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais été rageux avec lui, j'ai dit, je pense que s'il avait dans les mains une équipe Euroleague Eurocoupe, il ferait beaucoup mieux que des équipes de Pro B. Sauf que, quoi que tu fasses, il faut toujours prouver que tu as joueur, machin, faut coacher en Pro B, faut coacher, c'est comme ça en Pro A, enfin, faut coacher en dessous pour monter, c'est comme ça, en France, c'est comme ça. Donc, du coup, il a fait ça, il avait pas, et après, surtout, donc le truc majeur, c'est que j'ai été déçu, en fait, humainement. C'est même pas dans le jeu et tout, hein. C'est humainement. Il nous parlait grave mal, il nous respectait pas, il nous disait des trucs de ouf, il se mettait en avant. Oh, c'était horrible dans les vestiaires.
C'est marrant que tu dis ça, j'ai l'impression que.
Tu vois,
j'ai l'impression que tous ces anciens joueurs qui deviennent coach, tu vois, je vais faire un parallèle avec Thierry Henry où il y a eu pas mal de sorties.
Ouais.
Ils n'arrêtent pas de relater le fait qu'ils ont été des grands joueurs. Et que,
mais on s'en fout, tu vois, Zizou, il dit rien.
T'as cité l'opposé.
Lolo Foirest, il dit rien.
Il dit rien, mais c'est jamais été des joueurs
qui
se sont mis en avant, même en tant que joueur. Tu n'en as jamais entendu parler.
Non,
mais dès que les joueurs ont un caractère en tant que joueur, quand ils deviennent coach, on dirait qu'ils veulent être au-dessus de l'équipe. Ils sont coach, donc ils sont un peu au-dessus de l'équipe, mais... Il faut apporter en tant que coach. Là, t'es coach.
Voilà, après, c'est quoi? C'est
de l'ego déplacé. Hein.
Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, en plus, c'est plus du management que d'être coach en soi. Tu vois, c'est plus du management. Et le truc, c'est qu'avec avec Laurent, c'est ça qu'en fait, il m'a déçu de fou. Et après, il est devenu con d'un point de vue, genre, il voyait que ça prenait pas. Il nous faisait nous entraîner comme des ouf. Il nous faisait, genre... on demandait l'assistant qui est Jean-Paul Besson, il dit ouais Lolo je crois ils ont besoin un peu de jouer plus que... parce qu'on faisait beaucoup de drills sans ballon, ils aimeraient bien jouer un peu plus de 5-5 pour préparer le match. Et Laurent il a dit ah ouais ils veulent ça, ok ben on va les faire que courir. Et genre il faisait l'opposé tu vois pour montrer que c'était lui le chef. C'est des trucs pourris tu vois et ça me fait chier parce que
tu l'as idolâtré. Parce que tu l'as
idolâtré de ouf. Franchement, c'était un truc de malade. C'était le meneur. Avec... Ah, c'était à l'opposé avec Mousse, hein, Sanko, que j'adorais.
D'ailleurs, j'ai le podcast de Mousse. Hein. Va file l'écouter ce soir. J'ai le podcast de Mousse. File l'écouter. Tu vas rigoler.
Ah bah,
ça va te faire plaisir.
Bah ouais. Après, parce qu'en plus, tu vois, t'as pas besoin d'être. C'est exactement. C'est l'opposé. Enfin, on vient pas du même endroit. On n'a pas le même style de jeu. Mais c'est ce que je dis. Ce que j'essaye d'expliquer aux jeunes. C'est que tu peux être d'une. Culture, un endroit social différent, tu peux quand même avoir du chien en toi et avoir envie d'être un vrai warrior, tu vois, ça a rien à voir.
Totalement.
C'est une mentalité.
C'est une mentalité.
Et moi, ça, c'est ce que je kiffais. Et voilà, et moi, j'avais trois meneurs que j'adorais, c'était Lukowski, Moutonko, Laurent Ciara. Et si tu veux, et aux États-Unis, c'était White Chocolate.
Jason Williams.
Jay Will. Voilà, Jay Will, c'était un truc de fou, Jason Williams. Donc si tu veux, quand t'es à ce point-là, t'idolâtres un mec et ça se passe comme ça. Au bout d'un moment, j'ai dit c'est bon quoi. J'allais avoir ma fille en plus, je commençais à, tu vois, j'ai dit non, c'est pas possible. Et j'ai eu un coup du sort, c'est que le dernier match à domicile, Le dernier match à domicile, j'avais encore 2 ans de contrat, le club savait pas comment faire pour me couper, et genre ils ont inventé un truc de merde, c'est ça, tu vois, qui me rend fou et qui m'a collé à la peau, ouais. Au-delà de mon caractère, c'est qu'ils m'ont, ils ont dit que j'ai fait des trucs, j'ai genre fait un doigt dans les tribunes, tu vois. Ouais. Alors que j'ai jamais fait un doigt dans les tribunes, sauf à un ou deux Limougeaux qui le méritaient.
Ouais, mais ça c'est Limoges, on a vu encore des exemples avec...
Jamais aux supporters pour qui je joue, enfin, ça n'est jamais arrivé, ça fait 10 ans après, je pourrais dire oui, je l'ai fait, j'ai déconné. Non, je ne l'ai pas fait.
Non, on a cherché la bébête. Comment...
Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai une possibilité à ce moment-là, mon agent, et c'est là où, en fait, j'ai vu comment ce que je voulais faire et le mode un peu vas-y, on va au charbon et Kaira, vas-y, on lâche rien. C'est arrivé aussi à ce moment-là. C'est que mon agent me dit c'est simple, Antoine, tu as 2 ans de contrat, ils ne peuvent pas te couper là-dessus. Si tu veux, on les emmène au prud'homme, tu prends ton argent, tout ça. J'avais 23 ans, tu vois. 22, 23 ans. Ou alors. Là, il y a une pige pour les play-offs de proie. Tu peux aller avec Le Mans. Tu vois ? Mmh. Et ma fille venait de naître. Je dis, vas-y. Je prends un deal avec Vichy. Je dis, voilà, vous venez jusqu'à la fin des play-offs et tout, machin. Je vais faire les play-offs. J'y vais. Et là, mon gars, laisse tomber. Laisse tomber. Les play-offs 2012, c'était un truc. J'arrive, je suis personne. Et je joue, je sais pas, 20 minutes par match sur les playoffs avec Taylor Rochesti. Taylor Rochesti, il avait besoin de souffler un peu.
Il avait
tu
besoin
vois.
De souffler, tu l'as porté ce
et
qu'il fallait.
Et je joue avec lui. Voilà, et je joue avec lui. C'était une dinguerie. Premier match, on perd contre Nancy en quart chez nous. On va gagner là-bas. Et genre, en une semaine, tu vois. Et je suis MVP du match.
Hey,
et
t'es avec les Charles, tout ça là.
Oui, avec Charles, Alain,
Alain Confit, tout ça. Ah ouais.
Il y avait Antoine Diot qui était blessé. Moi, je remplaçais Henri qui a eu dit qu'il avait l'appendicite.
Ouais.
Et c'est un coup du sort parce que sur ce match-là, tu sais, je crois que je marque 12 points à 100%, mais genre, grosse défense, machin. Et genre, c'était un truc avec un score bas. Tu finis, Jacques Monclar, bon, bah, t'es le MVP. Ah bon ? Oh, putain, je vais descendre en N1. Bon, ok, c'est cool. Et les mecs trop contents au Mans et tout. On revient, on gagne chez nous après prolongation le 3ème. Et c'est parti comme ça. Et on est allé en finale. Et en finale, à l'époque, c'était sur un match sec.
C'était sur un match sec.
On perd contre Chalon-sur-Saône qui fait le triplé. Il n'y a même pas eu match. Tu vois, on perd de 20. Ils étaient trop forts.
Chalon-sur-Saône, cette année-là, c'était un joueur.
Tout, c'était n'importe quoi. Ils ont fait le triplé. De France, semaine des As. Ils ont fait finale de Coupe d'Europe aussi.
Ouais, c'était vraiment un joueur.
Donc voilà, l'histoire avec Vichy, tout ça. Et c'est pour ça, là, tu vois, demain, on joue à Vichy. Depuis, j'ai l'impression d'être maudit dans cette salle. Je fais jamais. Déjà, j'ai gagné. Enfin, je suis revenu 2 fois l'année dernière. On a perdu 2 fois. Et jamais je fais des gros matchs. Donc ouais, écoute, j'espère que ça va changer demain.
J'espère que ça aura conjuré le sort.
Exactement.
Et donc voilà. En termes de mauvaises aventures, on peut dire qu'il t'en arrivait des belles aussi à Orléans.
Ouais, de fou. Il y a une année. En fait, le truc, c'est qu'après après ces playoffs 2012, je signe un an à Orléans avec Philippe Hervé, où j'ai beaucoup appris. Mais c'était compliqué, un système assez compliqué, on fait 9e, etc.
Philippe Hervé, bon, c'est ouais. Très très compliqué. Hein.
Mais ouais, mais c'est bien. Enfin,
mais t'apprends,
tu vois, moi j'étais avec, en plus, tu vois, c'est un peu pareil. C'est, quand je finis la première année à Vichy, je signe derrière Karim Rip qui fait All-Star. Il est All-Star et tout, il est trop fort. Et là, je signe à Orléans après mes playoffs, et boum, je signe derrière Marco. Tu vois, backup Marco, il joue un peu d'eux. Et Marco, trop fort jusqu'à décembre, trop fort. Mais trop, trop fort. On faisait Eurocoupe et il était trop fort, Marco. Et il se pète en décembre. Genre, il se nique le genou.
Le genou,
du coup, c'est Brian Pamba et moi qui sommes à la mène. Et les 12-15 derniers matchs, on joue tous les deux 25-30 minutes. Et on est 25 minutes, on va dire. Et on était bon, tu vois, on était bien. Donc ça m'a bien relancé la fin de saison. Parce qu'en début d'année, j'étais pas trop utilisé. Puis j'étais pas très performant. C'était un peu compliqué, quoi, comme quand t'es jeune. Et derrière, cette année, ça a été. On finit 9e. Derrière, je re-signe 2 ans au Mans. Et là, c'était top parce que je re-signe au Mans, on gagne une Leaders Cup.
La Leaders
Cup. On finit 3e,
oui.
On gagne la Leaders Cup. Et l'année d'après, avec Counter, on fait quart de finale championnat d'Europe. Juste, on refait une finale de Leaders Cup qu'on perd sur un shoot. J'ai la balle de match dans les mains et une faute de fou qui n'est pas sifflée à 3 points et on perd le match. Donc, c'était un truc de fou.
Est-ce que tu fais comme LeBron James à te jeter par terre sur le terrain?
Non, moi j'étais déçu. Je me suis allongé par terre et en fait je l'ai pris pour moi. J'ai dit putain, j'ai fait une mauvaise chose. J'étais effondré, tu vois.
Ah,
j'ai
normal. Après normal.
Buzzer, c'était mal buzzer. De ouf, tu vois. T'as surtout que j'avais fait un. Ouais. Donc voilà. Et surtout que c'était pas. Enfin, il y avait une faute de ouf. La vidéo elle est folle. Genre j'ai dit pète un câble à la télé et tout. Et dit mais c'est inadmissible. Il y a faute. Donc bon, bref. Donc voilà. Mais moi après je passe à autre chose. Donc ça c'est cette année. Et après là je reviens à Orléans. 2 ans. Encore. Et la première année, parce qu'en fait, j'ai une proposition du Mans qui veut me signer 5 ans, mais je dis non, je prends le challenge, je vais avoir mon équipe, c'est le moment.
T'es un joueur qui veut des challenges, t'es un joueur de challenge.
Voilà. Et du coup, je demande à mon gars, il me dit, allez, vas-y, j'avais même appelé Yves Baraté, il me dit, mais non, Antoine, tu comprends, tu es un gars de challenge, il faut que tu y ailles, tu vas pas prendre des 5 ans à 25 ans, c'est pas possible. Je dis, ok.
J'espère que les auditeurs, ils kiffent les accents. Il est en train de faire les dialogues avec les différentes interventions, le ton.
L'accent du sud-ouest, il veut tout ping. Non, mais c'est. Donc, du coup, il me dit, bon, je prends le deal. Donc je signe 2 ans. La première année, donc c'était avec Pierre Vincent, équipe que j'adore humainement et dans le basket aussi. Enfin, en tout cas, avec moi, c'est très bien passé.
En tout cas, c'est la réputation qu'il a en tout cas en tant que coach.
Ouais, moi je le kiffe. Après, voilà, il y a des gars qui n'ont pas kiffé. Moi, j'ai kiffé. Donc du coup, c'est un gars du Sud-Ouest aussi, donc ça aide. Il connaissait mon père, ça. Et donc du coup, je me mets comme objectif. Je me dis, je vais être All-Star. C'est mort, je vais être All-Star. Donc c'était l'époque où j'avais le bandeau, les cheveux longs. Et là, on commence la saison.
Cette fameuse coupe.
Exactement, un peu viking, tu vois.
T'as voulu dédicacer Yann Bonato ou quoi?
Non, ouais, mais j'avais un gars qui s'appelait Von Dekins avec moi, il avait ça, et du coup, j'ai dit, vas-y, je fais pareil. C'était trop bien. On nous appelait les Headband Brothers. Donc, c'était cool. Et donc, je signe Orléans, et là, on a une vraie équipe. J'arrive à faire venir un mec avec que je kiffais trop, avec qui j'ai joué. Pierre Vincent, il m'avait demandé, c'était Chevan Trotman, qui est mon poteau de ouf.
Chevan Trotman, oh là là.
Il a joué 3 ans avec moi à l'ASVEL et là il revient à Orléans.
Laveur certifié.
C'est mon refrain de fou, c'est vraiment mon gars sûr. Et du coup, il revient et là on a une équipe où il y a Kyle McAlarney, Marcellus Somerville, il y a Antoine Mendy, Chris Joseph, Darnell Harris, moi, il y a Abdel Silla. Et on a une vraie équipe. Et là, on finit 9e, mec. 9e ou 10e avec le 16e budget. Donc là, je fais ma meilleure saison, etc. Et franchement, une ambiance de ouf, on s'entendait bien. Mais tu sentais que, en fait, il y avait des problèmes avec la politique du club et le président qui détestait le coach. Et en interne, si tu veux, le coach, je pense qu'avec du recul, c'était difficile avec ses collaborateurs, le kiné, les assistants, le bureau.
S'il y a tout ça, ça devient vite très très compliqué.
Et du coup, nous joueurs, on en a pâti un peu parce que tout ça, ils étaient tous proches, les assistants, les machins. Pierre, ils étaient tous des gars qui étaient à Orléans depuis des années, tu vois, qui étaient un peu des années Philippe Hervé. Et du coup, d'ailleurs, il a pris après Philippe Hervé, Pierre Vincent. Et du coup, ils lui ont mis des bâtons dans les roues. Lui, il a été, je pense, bon gascon, un peu con aussi, à pas se laisser faire. Et du coup, il s'est fait couper l'année d'après, au début d'année. C'est pour ma deuxième année. Parce qu'en fait, donc moi, je finis la première année. Ouais. Et là, j'ai un regret. Le plus gros regret, je pense, de ma carrière, c'est que j'ai Badalone qui veut me signer.
Qui veut te signer, et on comprend
pas. Voilà.
Et
ils veulent me signer.
On comprend pas pourquoi. C'est Orléans qui veut pas te lâcher.
Alors, même pas. Parce que si tu veux, moi, vu que j'étais proche du coach, j'étais dans le même bateau. En gros, j'étais personne ingrata, non grata. Voilà, ouais, exactement. Il voulait me tèche aussi. Donc moi, le coach m'a dit, écoute, je vais peut-être me faire couper cet été. Je dis, moi, je n'ai pas d'allon et tout. Il me dit, écoute, de toute façon, ils ne vont pas te retenir. Si tu veux y aller, tu y vas. Et finalement, il me dit, non, je reste. Et j'ai dit, écoute, toi, tu m'as donné à manger, tu m'as ramené, j'ai joué, tu m'as fait progresser. On a fait 9e, 10e, on garde à peu près la même équipe. On a changé 2-3 gars. Vas-y, moi, de toute façon, je vais encore taffer cette année, je me mets en mode. Et je l'aurai encore Badalone l'année prochaine, c'est sûr. Tu vois, si je fais la même saison, je l'aurai encore. Donc, vas-y, on confirme, on va choper les playoffs. Et du coup, ça, c'était mon truc. J'ai dit, voilà, je reste fidèle à mon coach, je reste fidèle au truc et à mon plan de carrière, je reste. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai pas fait un mauvais choix, tu vois. Mm-hmm. Sauf que ce qui se passe, on fait 6 matchs et je m'explose la cheville, je m'arrête 5 mois. Mm. Après ma belle année. Tu vois. Et du coup, pendant que je suis blessé, le coach se fait couper.
Ah ouais, ça y est, bon, c'est tout est
donc
bon.
Je reviens en février, c'est un nouveau coach qui est l'assistant, qui est Thomas Drouot. L'année d'avant, était descendu avec Le Havre.
Qui avait vécu une saison assez compliquée.
Galère de fou, voilà.
On lui a souhaité de partir, il a tenu, mais à la fin de saison.
Ouais, c'était chaud. Après, c'était chaud. Donc du coup, lui, c'est un très bon assistant, mais pour moi, c'est pas un coach principal, quoi, malheureusement. Du coup, c'était compliqué. En plus, il n'avait pas des gars, enfin, c'est pas lui qui a construit l'équipe, il y avait des problèmes, voilà. Moi, gros caractère aussi, je ne lâchais pas le truc, je mettais des gros taquets à tous les gens autour parce qu'ils avaient coupé le coach et tout, franchement, c'était ouf. Et du coup, je reviens un mois, je joue, j'ai mal, je joue, et je vois comment ça se passe, c'est trop bizarre, et j'ai mal, tu vois. Et là, dès avril, j'ai Le Mans qui vient vers moi, qui me dit, Antoine, l'année prochaine, c'est comment ? Je dis, bah, écoute. Et ils me disent, écoute, nous, on est prêts à se relancer. C'était l'année où Le Mans, en plus, c'était la seule année où ils n'ont pas fait les playoffs.
Ouais.
Et du coup, ils ont dit, voilà, toi, t'es un gars de fou. Et donc, moi, j'avais mal à la cheville. J'ai dit, écoutez, je m'arrête. J'ai trop mal. J'ai pas joué la fin de saison. Et j'ai signé au Mans.
Bah, est-ce que, ouais, donc, en effet, ça valait pas le coup. Tu vois que l'ambiance était nauséabonde.
Oh, j'avais trop mal. J'avais mal.
Tu voulais faire des efforts, t'as mal et tu vois que cette ambiance-là. Je me suis dit, attends,
ben ouais.
On va s'arrêter.
Et aujourd'hui, j'ai encore mal. C'est un truc, tu vois, chronique et tout. Voilà, je le gère, mais tu vois, c'était une fracture. C'était un peu chelou, tu vois. C'était vraiment pas. Ouais, c'était très bien. Ils m'ont bien pris. J'avais une super kiné qui me prenait en charge super bien à Orléans et tout. C'était top. Mais quoi qu'il arrive, tu m'enlèves pas que la tête est aussi liée aux blessures et que le fait que c'était la merde. Ben, toi, ta blessure a mis plus de temps, t'es moins bien, tout, voilà, c'est comme ça.
T'as vécu une énorme déception, t'as été déçu de tout ce qui s'est passé.
Et surtout,
et tu vois l'envers du décor du business, quoi.
Ouais, exactement, même si je savais, tu vois, là, j'étais vraiment, c'était compliqué. Donc, du coup, je signe au Mans, et puis, bah, c'est là où on est champion, en fait. L'année juste après, c'est là où on est champion avec Le Mans. Le Mans fait pas les playoffs, moi, je m'étais pété, je signe au Mans 2 ans, et là, c'est l'équipe avec Justin Copps, Michael Riley, Chris Lofton, Pape Philippe Omagou, DJ Stephens, Will Yegete, Roméo Trévis, Youssou Fafal. Voilà, je les ai tous dit.
Ouais,
et Terry Tarpey. Terry Tarpey. Que des frères. Et là, c'est voilà, la saison. C'est The Season, quoi. C'était le feu.
Bizarrement, les deux, trois années où vous avez fait un chantier ou des grosses saisons en termes de résultats, même si on ne comptait pas sur vous, c'était qu'avec des soldats.
Ouais, oui. Regarde, et le truc, c'est qu'on avait des gens talentueux cette année-là. En fait, ça a tout de suite pris, on commence à 6-0 et tout. On a un truc pourri qui nous arrive, c'est que Pape Philippe Omagou se pète et prend sa retraite derrière, tu sais, il se fait une discale,
ouais,
mais il est remplacé par Chris Lofton, qui était un tueur fini. Et donc, t'avais des talentueux, par contre, t'avais Willy Guetté, moi, Thierry Tarpé. Bah, déjà, t'avais nous trois en soldat et DJ Stephens qui sortait du banc. On était tous les quatre à sortir du banc.
L'oiseau.
Ouais, tous les quatre à sortir du banc, t'imagines ?
Non mais c'est juste, il y a un gros 5 de départ et derrière t'as un gros 5 qui arrive. Gros, l'intensité reste la même pendant 40 minutes.
Exactement, et les playoffs, gars, c'était une dinguerie, on finit mal la saison. On joue même un match en playoff où comment il s'appelle, Roméo Trévis est suspendu. Et gars, on fait des playoffs de ouf.
Avec sa papa de gauche, Roméo Trévis.
Ouais, laisse tomber. Franchement, ça reste une des meilleures saisons.
Attends, comment il s'appelle, pas le Brésilien, c'était lors des...
JP Batista, il était plus là.
JP Batista, c'était pas... pendant la Leaders Cup, c'est quand vous avez été vainqueur de la Leaders Cup.
C'était Leaders Cup, ouais. Il a été MVP de la Leaders Cup en 2014. Mais du coup, avec Le Mans, je crois que j'ai fait six finales en 7 ans, tu vois.
Ah, clairement. Et que de beaux mondes autour de toi.
Ouais, une Coupe de France, 3 Leaders Cup. Non, c'était cool. Franchement, c'était trop cool. Et en fait, plus tu en fais, alors je n'ai gagné que 2, une Leaders Cup et un championnat de France avec Le Mans. Mais plus tu en fais, plus tu as faim, en fait. Et tu te dis, là, on normalise parce que tu vois, l'ASVEL, bon, au final, ils gagnent les titres les uns après les autres. Mais il n'y avait pas d'équipe comme ça. Enfin, il n'y avait pas. Et pas autant, tu vois.
Non.
Là, maintenant, tu vois, c'est l'ASVEL ou Monaco, mais il n'y avait pas autant. Et la bagarre. Et nous, je sais, on a gagné en 3 matchs contre l'ASVEL, 5 matchs contre Strasbourg, 5 matchs contre Monaco. Tu vois. Donc,
mais de toute façon, ces résultats-là, quand ça joue autant de manches, c'est que tu as des soldats, tu as des crèves la faim dans l'effectif.
Voilà, c'est ça. Et tu as des soldats et là aussi, tu vois, mine de rien, on avait un staff qui était compétent. Tu avais bon Bartosz qui manageait. Le management, c'était pas son meilleur truc. Mais ce qu'il faisait, c'est que ça fait faire jouer de son équipe et surtout. Il faisait des trucs, il restait là-dessus, il était ouvert, c'est-à-dire que tu avais un mec comme Dunia Issa qui est ancien joueur, et lui, en l'occurrence, qui est un très bon coach, qui coach à Pontchéry, qui lui donnait plein de conseils, tu vois. Je me rappelle le truc pour Didier Cooper en finale, c'est Dunia qui l'avait donné à Eric, et on l'a fait, et ça a marqué de fou. Et Antoine Mathieu, qui lui était un soldat de la vidéo, des stades, des machins, voilà. On était comme ça. Et c'était pas possible, quoi. C'était énorme.
Compétent, compétent jusqu'à dans le staff. Que veux-tu ?
Ouais, ouais, exactement.
Il y a que les résultats qui peuvent tomber. Hein.
Et exactement. Donc, on a eu des hauts, des bas. Il y avait du gros caractère dans l'équipe. Il y a eu 2-3 clashs, mais toujours. Il y a eu des gros caractères. Justin Cobb, Roméo, Didier, c'est des gros caractères. Tu vois.
Mais c'est ce qu'il faut dans un groupe sain.
Ouais,
dans un groupe sain, c'est ce qu'il faut. C'est pas tout le monde s'entend bien, ça se tapote, ça rigole. Dans un groupe sain, il faut du caractère, il faut du clash à un moment. J'ose imaginer que les entraînements, c'était des matchs. c'était la continuité du championnat où chacun ne voulait pas perdre.
Exactement.
Ah, j'ai envie de te poser cette question parce que de belles choses au Mans. Mais quand on t'apprend qu'on ne veut pas te garder.
Ah, c'est sûr. En fait, ce qui s'est passé, donc, en fait, faut voir là, je pas savoir. En fait, après le titre, c'est tout un truc avec Clément. Ça a été toujours un peu.
Je t'aime moi non plus.
Par moment, ben, je t'aime moi. Quand il arrive, je suis lié à ce club, il est lié à moi. Mais, tu veux, en fait, ce que j'ai pas. Il y a plusieurs trucs. C'est que quand on est champion, d'accord. Il me reste un an de contrat, j'ai pas de clause. Il me reste un an de contrat au Mans. On ne voit plus une Champions League, tout ça. Donc, le côté club, eux, ils veulent pas me lâcher. Sauf que j'ai une vraiment très belle offre à Strasbourg avec Vincent Collet comme coach. Et Vincent Collet, je l'avais eu quand j'étais jeune à l'ASVEL, mais je n'étais pas prêt, en fait. Je n'étais pas prêt mentalement, je n'étais pas prêt dans l'éthique de travail, si, mais je n'étais pas collé compatible, entre parenthèses. Et là, le coach me veut, Vincent me veut. Donc, j'ai 2 ans de contrat en place là-bas. Et ma femme attend le 3e.
D'accord.
Elle est enceinte du 3e. Donc, du coup, je dis, un gros contrat, machin, Vincent Collet. Je n'ai pas fait une croix sur l'équipe de France.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas une porte qui s'ouvre aussi pour l'équipe de France à ce moment-là ?
Il y a une porte qui s'ouvre parce qu'il va me voir comment je suis au quotidien, machin. Bon, j'avais fait des gros playoffs et tout. Et Le Mans n'a jamais voulu me lâcher. Jamais, 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 jamais. Et donc, du coup, je suis rentré, j'étais vénère, tu vois. J'ai commencé la saison. Mais vu qu'ils me connaissent et qu'ils savent que quand tu pousses un bouton d'énervement,
je
me mets en mode, j'ai commencé la saison, c'était injouable. Le premier match, moi, j'étais à 15 points de moyenne, injouable, c'était un truc de fou. Et moi, je disais, vas-y, je calcule personne, je fais mon game. Et vas-y, vous voulez jouer à ça. Et en fait, ça a servi tout le monde, eux, moi, tout le monde. Et parce qu'en fait, moi, ce que j'ai dit, prolongez-moi après le titre, il me reste qu'un an. Non, non, on verra. Je dis, vous ne me prolongez pas, laissez-moi partir. Ah non, non. Donc en fait, il me disait non pour tout. Je devenais fou. J'étais en train de câbler, moi.
Ah, il y a de quoi de câbler, mais est-ce que tu te retrouves pas dans des dommages collatéraux entre Collet et son histoire avec Le Mans
Franchement, je sais pas.
Les dirigeants qui veulent quand même garder une pièce majeure de leur effectif pour assurer la saison, en fait, ils ont minimisé la prise de risque.
Ouais, oui, c'est ça. Non, mais après, avec du recul, tu comprends le côté club. Mais je me suis dit, vas-y, on a une relation plus que ça. Peut-être clairement. Que, mais non. Et en fait, ça s'est confirmé quelques années plus tard, quand derrière, il énonce mon contrat. Donc, ce qui se passe, c'est que cette année-là, après, je reste, on fait la BCL, machin. Donc, BCL, on va en 8e, ça se passe bien. Moi, je continue, tu rolls star. Individuellement, ça se passe bien. Mais on fait 8e parce que c'est parti en sucette à la fin. Enfin, en sucette, pas en sucette, on a été moins performant. On perd contre l'ASVEL en quart. On fait quand même une finale de Coupe de France qui est un petit regret parce qu'on mène de 10 points à la mi-temps et on perd contre l'ASVEL. Parce qu'il y avait Pirro, Pilan, Cagnettis, l'année où ils gagnent le titre d'ailleurs. Et entre temps, en mars, il me prolonge, il me donne 3 ans. D'accord. Et il me donne 3 ans, un vrai contrat, pas de problème, on est d'accord sur tout et tout. Il me donne un 2 plus 1, c'est-à-dire 2 sur plus 1, parce que ça correspondra avec le fait qu'ils veulent lancer le petit Gozin. D'accord ?
Ouais, Mathieu Gozin.
Voilà. Donc, je dis ok, machin, sachant que les clauses comme ça, en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en gros, on se met d'accord un 2 plus 1, mais si vraiment tu veux aller au bout du truc,
tu peux y aller.
C'est pas légal, tu vois, tu dois faire les 3 ans. Mais bon, bref. Donc, fais ça. Donc, l'année d'après, c'est. Et attends, je signe pour le coach. Il me dit, ouais, je reste, c'est sûr. Et un mois après, Bartosz, il dit, non, je me barre. Je me barre à Gravelines. Donc, Dounia, ça reprend. Moi, je suis comme un dingue, c'est mon gars.
C'est Dounia qui reprend, exactement.
On a joué 3 ans ensemble, 2 ans en tant que coach. Enfin, voilà, ça fait un peu bizarre, mais moi, j'ai dit, vas-y, je suis son soldat, je vais à fond. Et en fait, On commence la saison et là on commence 3 victoires, 8 défaites et il se fait cut.
À une vitesse.
Là, là. Ah, ouais, j'étais comme un ouf. J'étais comme un fou. Et on sait pas, on est resté loin l'un de l'autre pendant un long moment parce que voilà, je respecte. Ça a été dur hein, pour moi, mais pour lui aussi. Et il a voulu couper avec, avec le Mans, tout ça. Il n'y a pas de, voilà, y a pas de galère. Ok, pas de soucis, ça a été compliqué parce que c'est quelqu'un, ah, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'étais très proche,
ah, c'est
que j'apprécie
quelqu'un
énormément.
C'est
et surtout qui est compétent de fou. Ouais. Et on le voit avec ce qu'il fait depuis 2 ans avec, avec son chéri. Même s'il pense qu'il est meilleur maintenant qu'il l'était avant, c'est comme quand t'es joueur, tu vois.
Clairement.
Faut apprendre. Donc très bien. Et du coup, il s'est coupé, c'est Elric Delors qui reprend au début et soi-disant il devait reprendre qu'en intérim, sauf qu'on gagne 7 matchs d'affilée.
Ah bah, à partir de là, il est confirmé. Il est confirmé.
Donc il est confirmé. Et puis c'est l'année Covid, on s'arrête, on est 8 ou 9e, on s'arrête en mars, d'accord. Donc derrière ça, il me reste encore 2 ans de contrat, 1 plus 1. Donc voilà, Elric, moi je, basketement parlant, j'adhère complètement, complètement. Sur cette année-là, sur cette fin d'année humainement, on s'entend correctement, il n'y a pas trop de problèmes et tout. Bon, construit son équipe pour l'année d'après, donc ça c'est l'année où, avant Chalon. Il l'a construit, donc on met une grosse équipe, machin, bon bref. Moi, j'étais titulaire à 25 minutes, en poste 1-2.
Ouais, tu jouais combo, t'étais sur les postes 1-2.
Gros, je fais une saison à 10 points, 4-5, enfin je suis bien, 11-12 dévals, enfin je suis encore All-Star, je crois. Enfin,
tu fais une bonne saison.
Staff, tu vois, je suis trop
tu
bien.
Fais une bonne
saison. Sachant que moi, j'ai jamais été un gars, je vais mettre 15 points ou faire 18 passes, je vais m'arracher, je vais défendre fort, je vais essayer de défendre sur le meilleur joueur.
Tu vas faire des trucs qu'on voit pas sur la feuille. Tu vas faire des trucs qu'on voit pas sur la feuille.
Voilà, et après, je vais te mettre 2-3 tes jeux importants. Donc voilà, ok. Et du coup, lui il me dit ok, l'équipe se fait comme ça. Et là je vois jusqu'à la moitié de saison, il me fait jouer genre 10, 12, 15, des fois je pète un câble, je dis c'est un ouf, c'est tout. Et donc en fait j'ai compris très vite que j'étais pas dans ses plans, mais qu'il était obligé de faire avec. Sauf que vu qu'il savait, et tout le monde savait que moi le club c'était mon club de cœur, et que je donnerais tout pour ça, ben je suis resté égal à moi-même. C'était très très dur, mais je défendais comme un ouf. J'étais à fond, à l'entraînement j'étais à fond, et après des fois le caractère ressortait en me disant hey, vas-y tu vas plus me faire jouer, tu vas voir et tout, machin. Tu vois, à l'entraînement je l'ai fait, mais pour autant ça changeait pas, donc ok.
Ça changeait pas la donne.
Non, mais moi en même temps, il savait, c'est là où c'était un peu vicieux, c'est qu'il savait que j'avais une épée de Damoclès en me disant qu'en avril il devait me donner une réponse pour l'année d'après, tu vois. Faut savoir si je respecte ou pas. Donc, du coup, moi, en gros, ça lui, dans sa tête, ben, dans leur tête, au club, sans dire que c'est que Elric, ben, quelque part, ils savaient que j'allais me tenir un peu entre parenthèses en l'aise, tu vois, parce que moi, je faisais tout pour rester. Et du coup, c'est là où c'était compliqué. Donc, pour répondre à ta question, j'en viens que maintenant, mais au moins, t'as les explications.
Ah, j'ai les explications,
voilà.
Clairement.
Ce qui se passe, en fait, c'est que ma femme trouve une formation super importante au Mans. Mes gamins sont de là-bas, on a la maison, tout ça, on est bien. Moi, je fais tout dans mon quotidien. Je reste égal à moi-même, mais je fais tout pour faire tout bien pour l'équipe. C'est-à-dire que je passe des fois du temps à jouer 20 minutes, à ne pas prendre un shoot, à faire que défendre. Mes coéquipiers respectent grave ce que je fais. Toi, Scott Bamford, il m'a dit franchement, respect, parce que passer de ce que tu faisais l'année dernière à ça, c'est ce que tu fais pour l'équipe. C'est dur de ouf, mais continue et tout. Mais franchement.
T'étais le cœur de l'équipe, je te le dis la vérité.
Des bons gars, tu
vois. Le cœur de l'équipe.
Donc, j'ai dit ok, vas-y. Je fais. Et en avril, ils me disent bye bye, c'est mort. Là, je dis ouais, c'est mort.
Ah, je me rappelle quand j'entends l'annonce.
Avril. Déjà, moi, ils voulaient que je le garde pour moi. Je dis commencez pas. Moi, je vais communiquer comme je veux. Si on me demande, je répondrai. Et en fait, ce que j'ai pas du tout apprécié, le GM, je savais comment il était. Donc, ça m'a pas surpris. Le président, quelque part, n'était pas décisionné. En fait, il y avait le GM, le coach, le président. Le président voulait me garder à tout prix, mais le GM et le coach, eux, non. D'accord.
Et le président n'est pas décisionné.
Alors, il peut au bout du bout, mais tu ne vas pas aller contre ton staff sportif.
Le GM et ton coach,
voilà,
bien sûr.
Donc, eux, ils me trouvent comme excuse, ouais, il y a match. C'est pas une histoire de salaire, c'est pas une histoire de jeu, c'est pas une histoire de machin.
Ils t'annoncent qu'ils veulent faire développer Mathieu
voilà.
Gauzin.
C'est l'excuse Mathieu Gauzin. Mais ça n'a jamais été ça. En fait, c'est pour ça que moi... Et la seule rage que j'ai par rapport à ça, et elle est, et un jour peut-être qu'on s'expliquera, elle est par rapport au coach, à Elric. Il n'a pas eu, après en même temps il était jeune coach, mais le coronesse de venir me dire écoute, je respecte tout ce que tu as fait, il n'y a pas de souci, mais en gros, je ne te vois pas l'année prochaine dans mes plans, je n'ai pas envie que ça continue comme ça. Il n'est pas obligé d'entrer dans les détails, mais de dire voilà, je te le dis en face, Voilà, moi, je
compte pas sur toi dans mes projets.
Je veux pas continuer. Donc c'est pour ça. Et alors qu'il a fait complètement l'opposé, en disant que mais mec, machin, que non, mais que c'était très bien, mais que c'est pas lui, tu comprends, le club, le contrat a été signé quand il n'était pas là, que si, que ça. Et j'ai dit,
il a pas su. Non
plus, mec.
Il a pas su.
J'ai dit, soit moi j'ai pas été éduqué comme ça. Et en plus, c'est un gars du sud-ouest, donc je me suis dit, c'est un mais que dalle. C'est... Et du coup, qu'il ait fait ça, c'est ce qui m'a appliqué le plus. Et du coup, j'ai dit, ok, d'accord. Et donc, moi, peut-être de con que je peux être, j'ai dit, ok. C'était pendant le Covid encore. Donc, on avait pu jouer peu de matchs, tu vois.
Vous aviez pu jouer. Vous étiez les équipes, l'équipe qui avait joué le moins de matchs pendant le Covid. Mais après, vous avez enchaîné.
Il restait 17 matchs. Et là, mon gars. En plus, il y a le karma qui est venu parce que son meneur se pète. Son poste 2 se pète. Donc, je finis. Je joue 30 minutes par match. Et en fait, je l'annonce direct. Les journaux m'interrogent. Je dis, écoutez, c'est simple. Moi, il y a plusieurs choses. Un, je dois nourrir ma famille l'année prochaine. Donc, il faut que je sois bon. Deux, c'est mon club. J'ai toujours fait les playoffs avec ce club-là. Donc, je suis là, j'ai toujours fait les playoffs. On était 9e, je crois. Toujours fait les playoffs. Trois, je vais leur prouver qu'ils se trompent. Parce que j'ai fait tous les efforts et changé mon jeu pour eux, pour le club, pour le groupe. Et là, on me l'a fait à l'envers comme ça. Donc, j'ai dit quoi ? J'ai dit, ok, feu.
Tu vas te mettre à l'endroit. Voilà.
Et là, mon gars, laisse tomber. C'était feu d'artifice. En fumée.
Ouais, je balance.
Feu d'artifice. Parce que, mais gros, et c'était ouf parce que, en plus, je fais le TQO. C'est-à-dire que juste avant le TQO, je commence à taffer. Et il y a le TQO 3-3. Et le TQO 3-3, je fournis de ouf, mais on se qualifie pas. Ça fait chier, quoi. Tu vois ? Genre, je manquais d'expérience. Moi, individuellement, j'étais très, très bien, mais peut-être moins utilisé les coéquipiers. Et voilà. Donc après, ça m'a servi de leçon pour la suite, pour les autres compètes. Donc, j'étais bien. Et je suis revenu, j'étais en forme. J'allais plus vite que tout le monde. J'étais trop bien. Et là, les 10-12 derniers matchs, c'était la folie. C'était la folie. C'était la folie. Et du coup, on finit 7e. On se qualifie pour les playoffs. Je crois, je fais. J'avais jamais fait ça. Les 5 derniers matchs, il faut en gagner 4 sur 5. Je crois. Et on fait 4 sur 5. On fait 4 sur 5. On perd juste.
Là, je suis en train de regarder.
On perd juste à Dijon. On perd juste à Dijon ou Holston, mais 46. 46 points. Ouais. Et sur les 5 matchs qu'on gagne, je suis à. Sur les 5 matchs qu'on gagne, je suis à 23 des Val de Moyenne. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai dit, ça me casse. Et après, j'avais des problèmes de dos. J'ai dit, je peux pas jouer là. C'était, tu sais, les quarts de finale, on avait fait sur un match sec et tout. J'ai dit, moi, je vous ai tout donné.
Ça, c'était le problème de la Ligue qui a pas pu s'organiser clairement.
Et là, c'est moi qui ai choisi. J'ai dit, je dois trouver un club. Mon dos, il est défoncé. J'ai trop mal. J'ai tout donné pour vous. On va en playoff. Je n'aurai pas le quart. C'est sur un match sec en plus. Ça rime à rien. C'est mort. Ils m'ont dit, ok.
Clairement.
Donc voilà, bien l'histoire, sûr, elle est là. Et voilà, et j'ai gardé, quoi qu'il arrive, j'ai gardé en travers de la gorge le fait que mon pote Dounia il soit fait cut. Et que moi, si tu veux, j'étais bloqué. C'est-à-dire que c'était mon club. C'était mon gars de fou, mais c'était mon club. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Ben, je suis obligé de faire les sacrifices et de croire au projet du coach qui reprend, qui est l'assistant. Tu vois ?
Ta facilité. Et t'as facilité l'arrivée du coach.
Et qui derrière et m'a fait sauter. Donc,
et derrière, il appuie sur le bouton éject, tu t'as dit.
Voilà. Donc voilà. Et depuis, il y a d'autres gars qui étaient au club qui ont sauté aussi, comme le kiné par exemple. Donc, voilà, mais c'est comme ça. Après, tu veux, je suis objectif par rapport à, par exemple, à Elric, c'est que c'est un putain de coach. C'est un bon coach. Franchement, c'est un putain de coach. Moi, quand tu mets en place les entraînements, tactiquement, tout ça, alors. Il manque peut-être encore un peu de laisser trop plus de liberté aux joueurs, tu vois. Il est un peu très robot récité. Mais franchement, tactiquement, techniquement, les vidéos, les retours, franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment, en plus, franchement, je le reconnais, c'est vraiment bien ce qu'il fait. C'est vraiment, vraiment bien. Mais voilà. Parce qu'au moment où tu fais ça à un ancien comme moi du club, moi, j'aurais aimé que tu me dises, vas-y, appelez un chat, quoi, tu vois.
Clairement, tu t'attends à de la transparence.
Donc, ça n'a pas été le cas. Et voilà comment ça s'est terminé. Donc, l'histoire, la vraie histoire, où je suis là. Du coup, je ne l'avais pas trop. J'en ai parlé en interne quand les gens me demandent dans le basket et tout. Mais voilà. Et derrière, du coup, j'avais vraiment beaucoup de projets. J'avais pas mal de projets. Alors, pas mal de projets, oui, non. J'avais des projets. Pour de la proie, j'avais, après la fin de saison et tout. Mais pareil, on était en poste. On était après le Covid. Donc, tu vois, il fallait attendre juillet, août pour finir. Et moi, j'ai les gamins, tout ça, tu vois, c'était pas évident.
Ah, t'as la famille.
J'ai la famille.
Toi, t'as besoin d'une réponse assez rapidement.
Et en plus, j'avais que des 2 ans, parce que j'avais 33. Du coup, les clubs me donnaient que 2 ans au contrat. Mmh. Et très tôt, avant la fin de saison, Valence était déjà positionné. Et eux, 3 ans. Pour de la proie. Et du coup, ils ne m'ont pas maintenu. J'ai dit à mon agent, plaque, c'est mort. Je vais aller en Pro B, t'es fou, quoi. Je vais aller fin. C'est trop tôt. C'est possible. Je vais aller en Pro B, c'est mort. Mmh. Donc, voilà. Histoire du départ du monde.
Ah, d'accord. Putain, mais. C'est pas easy du tout. C'est pas easy du tout, sachant que t'es un joueur entier, tu t'attends à que les gens soient entiers vis-à-vis de toi.
Business, tu vois.
Juste honnête, même si on sait que c'est le business, mais à un moment, c'est une affaire d'homme.
Ouais, bien sûr.
C'est une affaire d'homme. Donc à ce moment-là, un peu de respect, de la transparence, et on se serre la main et ça s'arrête là. Fin.
Ouais, ouais.
Fin.
Et donc voilà. Mais après, tu vois, j'y retourne. Enfin, c'est chez moi là-bas. J'ai ma maison. Tu vois, enfin, je parle toujours. Terry, c'est mon gars. Kaza, discute. Là, tu vois, le petit Kenny Baptiste, il a signé en prêt chez nous. Il était au Mans. Donc, on en a discuté. Enfin, voilà, tu vois, il y a pas mal de trucs. Et donc, je me suis lancé sur le projet Fallon.
Non, mais donc, plus un projet. Il va falloir régler ça parce que. L'année dernière, on a cru que vous alliez remonter assez facilement avec votre début de saison.
C'est mort. C'est mort.
Après,
c'est
y a une hécatombe.
La probé, c'est trop dur. Pour respecter la probé.
Et voilà, on en arrive là où je voulais revenir. Les gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est la probé aujourd'hui.
Mais tu sais que moi.
Toi maintenant de l'intérieur.
Non, en fait,
parce que
truc,
tu l'as regardé.
Le truc, c'est que.
Toi, t'es un amoureux du basket. Donc, tu la voyais un peu de l'extérieur.
Non, mais moi, je savais. En fait, le truc, c'est que. Très tôt dans ma carrière, j'ai compris qu'il fallait respecter tout le monde, n'importe qui et toute entité. Donc moi, quand je finis le Mans, je dis à mon agent, tu regardes que étrangers ou France plaque, le reste, Chalon me propose ça, ils descendent. Et c'était un beau contrat sur 3 ans et tout. Et du coup, c'est un contrat de proie, en fait, tu vois, sur 3 ans, sec en plus. Donc ça m'emmène à 36 ans. Donc le projet, la proie, ils veulent un gars qui... Je dis, vas-y, feu, ils descendent. Donc là, je dis à mon agent, c'est mort. Et tout. Donc on plaque, on regarde. Donc on a des équipes. On a les équipes de Paris, on a Pau, on a Machin, on a Truc, on a des équipes en proie. Mais que 2 ans, il faut attendre. Et là, Chalon rappelle et dit, on garde le même budget. Et de la, en probé l'année prochaine, on garde le même budget. On va remonter direct. On fait l'équipe de ouf. On propose le même contrat, mais pour la probé l'année prochaine.
Cool. Là, il y a réflexion.
Là, Ils sortent le bazooka comme ça pour de la probée. Tu vois, alors en plus au Mans, à savoir sur les contrats au Mans, tu sais, t'as pas la maison, t'as pas la voiture. Là, c'était voilà, j'ai vraiment un beau contrat pour Chalon. Je dis, j'ai mis un mois, tu vois. Puis il y a l'été, il y a le 3-3, ça. Je dis, je sais pas, j'étais en Martinique quand j'ai signé. Tiens. Et du coup, je pense que j'aurais été célibataire, j'aurais jamais signé, j'aurais pas pris, tu vois. Mais là,
t'aurais pris plus de risques,
ouais.
Mais là, t'as
la
famille.
Bien sûr. Mais dans toute ma carrière, tu vois, j'aurais pris plus de risques. Mais bon, j'ai pas de regrets là-dessus, j'ai la famille. Tout
pas ça. De regrets, que du kiff, que du
exactement.
Bonheur.
Donc, du coup, ma femme me dit quand même et tout, machin. Bon, donc on prend. Je prends le deal. Et je sais déjà que la probé, ça va être chaud. Je respecte de fou. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, en fait, dès la leadership et tout. J'ai dit, waouh, c'est pas du tout le même. Et jusqu'aujourd'hui, je te le dis, moi, je trouve. Alors. Bien sûr que la proie c'est plus fort et que tu mets des proies contre des probés, ça tape les probés, c'est pas le problème.
Mmh.
Mais pour moi, le joueur que je suis et la façon dont je joue et je vois le basket et tout, c'est plus dur la probé. Pas dans le sens où moi et mon game ou quoi que ce soit, parce que tu vois, en plus le 3-3 m'a aidé. En 3-3, tu vois, c'est toi et ton game aussi. C'est moi en 3-3, je joue beaucoup de 1 contre 1, je mets, tu vois, c'est pas le problème. Et puis j'ai cette mentalité, c'est pas un souci pour ça la probé, c'est plus. Sur en fait et aussi autour la qualité d'arbitrage, la qualité des salles, mais du jeu, de la construction d'équipe où t'as que des petits undersize, que ça joue comme des fous, c'est-à-dire qu'en gros un mec qui met 2 points par match, il peut t'en mettre 15 à balancer comme un ouf et pas s'arrêter. T'as un ricain, donc le ricain il est là, il joue tous les ballons, et souvent c'est au poste de meneur. Comme
en parlant de ça, je pense que tu vas avoir un sacré client.
Comme demain, ouais, on les a déjà joués. On les a déjà joués. Donc Boyle demain par exemple, tu vois, qui est un fort joueur individuel. Entre parenthèses, ce mec-là, tu le mets à Rouen l'année prochaine, il est le meilleur marqueur de Pro A. Donc je sais pas si ça se fera, mais on est le 30 janvier, tu notes. Il finit à Rouen,
je note, je note.
Il est meilleur marqueur de Pro A l'année prochaine. Bon bref, et du coup, moi j'ai dit waouh. Et puis pareil, là, le club s'y attendait pas, le club pensait qu'on allait faire 34-0 et ils ont pris un truc dans la tronche. Et ils avaient tout structuré le club et tout le monde l'a pris dans la tête en fait. Le club, moi, tout le monde. Donc ça nous a tous remis en question et c'était comme ça. Et donc bon, à titre individuel, ma saison elle était bien, c'est pas le problème. Mais ça sert à rien si tu montes pas en fait.
T'arrives avec un projet en plus.
En plus t'arrives avec un projet et tout, c'était bien.
C'est super beau une montée, hein. C'est super beau une montée.
Mais c'est dur de ouf. Et cette année ça nous sert. Cette année ça nous sert de fou. Cette année on est. Et puis ça a changé. Tu vois, l'année dernière, on avait un coach qui ne connaissait pas la France. On avait des joueurs qui ne connaissaient peut-être pas la France. Ils avaient sous contrat un mec comme Meyers, ce qui n'était pas adapté pour la Pro B, mais qui était sous contrat. Donc, il fallait faire avec. Enfin, il y avait plein de trucs. Donc, mais malgré tout, on arrive jusqu'à février, on est premier, tu vois. Et derrière, explosion façon puzzle, parce que c'était compliqué. Je ne vais pas aujourd'hui. J'ai le droit de réserve aussi parce que je joue à Chalon, donc je ne vais pas expliquer, mais en gros, voilà, ça n'a pas pris, la mayonnaise n'a pas pris, et c'était pire.
Ça a implosé.
C'était un tout, quoi. Il n'y a pas qu'un responsable, c'est tout le monde, donc on s'en est servi cette année, et puis le fait que Savo arrive avec l'expérience qu'il a, ça aide aussi, quoi.
Ah, tu me parles d'un coach que j'ai eu en espoir.
Ouais, ben voilà, tu vois. Donc,
j'ai eu Savo. Moi, j'ai eu Savo à Bondy en Pro B.
Ah ouais, tu vois. Donc, Savo, c'est, tu sais qu'il va pas révolutionner le basket. C'est un mec à l'ancienne. Mais dans le management, il est là, quoi. Et il a des résultats.
C'est un gars démonté, hein. C'est un gars démonté, hein.
Donc, c'est très bien. C'est très bien. Écoute, pour l'instant, je touche du bois. Ça se passe bien. Demain, c'est un gros match comme celui qu'on a joué là il y a 3 jours à Reims. On veut le prendre à tout prix, mais aujourd'hui on se met beaucoup moins de pression sur un match perdu. C'est-à-dire aujourd'hui il y aurait Vichy chez eux, c'est chaud, quoi, et ils jouent très bien.
Et ça va tellement vite, la Pro B. Ouais, d'une journée à une autre.
Exactement.
Et d'une journée à une autre, ça va tellement vite. Ouais. C'est pour ça qu'il faut rester focus jusqu'à la fin.
Exactement. Donc voilà, le truc là où on en est.
Et de belles choses et de belles aventures.
Comment ça va se passer, mais 3-3. En tout cas, on a un groupe de malades mentales et ça, c'est cool, quoi. On a un vrai groupe.
Ça, c'est cool pour l'aventure.
Depuis 2000, depuis le titre, j'avais pas retrouvé un groupe comme ça, vraiment. Là, le groupe.
La comparaison, elle est forte.
Hein. Ah, elle est très forte parce que. Mais le 3-3 m'a permis aussi parce que le. Voilà, j'ai vécu un truc de fou cet été aussi avec le 3-3. Le 3-3, ça décupe les émotions. Et si tu veux, vraiment, j'ai essayé de. Mettre en place, moi, les vibes positives du 3-3 sur notre équipe de 5-5. Et vu que le groupe est réceptif et que tout le monde joue le jeu, c'est top.
Ah, clairement. On va rebondir sur le 3-3 d'ailleurs. Comme l'introduction, comme tu as pu la faire tout à l'heure en disant que tu arrives au 3-3 sans forcément connaître le 3-3 avec tes compétences avec lesquelles tu t'es adapté carrément rapidement, mais tu t'es rendu compte qu'au TQO, tu manquais encore d'expérience. Et au travers de cette dernière année, il y a plein d'émotions qui sont passées entre vos résultats, la blessure de ta cheville à ce moment-là.
Exactement. C'était chaud. C'est dingue. Pour la naissance, la naissance du 3-3, en fait, en 2019, j'ai demandé à essayer. Et j'ai fait un tournoi qui était le Big 12, juste avant la Coupe du Monde, justement, en 2019. En fait, j'ai survolé le tournoi. C'était un truc de fou. Je dis, en fait, ça va le 3-3. Mais, parce qu'il y avait les meilleures équipes du monde. Il n'y avait pas les Serbes, il y avait les États-Unis qui étaient championnes du monde derrière dans la foulée. Et en fait, je pense que j'ai jamais eu une adresse aussi importante de ma vie, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, on gagne le tournoi avec une équipe de crack, avec deux joueurs de N2 et plus Ludo Negrobar. On arrive à gagner le tournoi, moi je touche pas, je flotte sur le truc. En demi, on bat les States. Et je finis donc MVP du truc et je rentre comme ça dans le 3-3. Donc laisse tomber, ça fait un buzz de fou. Je suis le premier joueur de Pro A référencé qui va dans le 3-3 en plus. C'est un truc de malade, tu vois. Et derrière, après, il y a eu des stages dans l'année. Et là, j'ai été moins bien, tu vois. J'ai joué mon game, mais j'ai commencé à apprendre le 3-3. Parce qu'en fait, moi, on était sur une équipe au Big 12 et c'est moi qui gérais l'équipe, tu vois, comme je pensais. Mm-hmm. Je mettais des systèmes, des trucs, et il a fallu s'adapter. Et à jouer avec des bons joueurs 3-3. Et voilà, tu vois, un mec comme Dom Gentil m'a énormément aidé jusqu'à présent dans le 3-3. Et bon, il était très casse-couille aussi, hein, il le sait, le Dom. Mais il m'a grave aidé. Et tu apprends toujours, en fait. Et du coup, il y a eu une première désillusion avec le TPO, où pareil, j'avais été individuellement vraiment top, mais tu vois, j'avais pas compris quand à un moment donné, bon, je citerai pas le nom, mais des entraîneurs 3-3, enfin des joueurs, des... j'ai un gars, il m'a dit, qui est expérimenté dans le 3, il me dit: Antoine, t'as été trop fort, t'as été trop bon, et du coup, les autres, ils osaient pas. Je dis: comment ça? Je dis: ça, c'est de la mentalité de merde, c'est des trucs de français, les ricains. Si t'es trop fort, on donne la balle au mec qui est trop fort.
Exactement.
Et je comprenais pas, jusqu'à cet été, où j'ai dit: vas-y, essaye de faire plus confiance, délègue plus. Et on a fait une médaille, la Coupe du Monde. Ah ouais.
Qu'est-ce qu'elle est belle, cette foutue médaille en plus.
Et comment?
Qu'est-ce qu'elle est belle, cette foutue médaille en plus.
Et du coup, le gars qui m'a dit ça, je dis: mais on était en plus en prépa de la Coupe du Monde. Je dis: mais il se fout de ma gueule, en fait. J'étais trop fort. Et moi, ça m'énerve, tu vois, parce que je suis compétiteur. Je dis: comment ça? Je vais pas me mettre au niveau des autres. C'est pas de ma faute.
C'est toi qui est censé de les tirer vers le haut.
Voilà, donc je l'ai fait, mais d'une autre manière, en comprenant. Et ça s'est super bien passé. Alors après, je vais pas changer mon jeu, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai ma façon de jouer, mais j'écoute ce qu'on me dit. Mais après, si t'aimes pas, tu sais ce que. Et ça, en fait, ça m'a vachement aidé sur cette année. C'est la même chose cette année au 5-5. Je dis: voilà, j'ai mon game, je joue comme je sais jouer. J'écoute les consignes et tout, comme j'ai toujours fait, mais je joue mon game. Et si ça plaît pas, il y a un coach qui me sort. Tu vois. Et dans ce cas-là, 3-3.
C'est la seule personne qui va valider.
Exactement.
Ou pas.
Exactement, t'es
en fait.
Pas content, t'aimes pas, que je sois bon pas, tu trouves pas, tu me sors. Une fois, deux fois, pas de problème. Et moi, je joue mon game, j'ai 35 balais bientôt.
T'as assez de bouteilles maintenant pour comprendre tout ça.
Je suis pas un gars qui triche toujours au taquet à fond tout le temps, donc, parce que tu peux pas faire autrement. Donc, je vais pas tricher, c'est juste t'aimes ou t'aimes pas. Tu penses que le puzzle est bon dans l'équipe ou pas. Et au 3-3, c'est ça sur une sélection, en fait. Donc voilà, donc le TQO, bon ben, voilà, c'était un crève-cœur. Derrière, on fait la Coupe d'Europe où là on décolle. C'est-à-dire qu'on avait, honnêtement, on avait vraiment une équipe pour aller largement en demi, mais on fait les cons, on mène 18-13 sur le deuxième match de poule à Paris contre les Lituaniens et on perd 21-20 ou 21-19 sur un truc de merde.
Laisse tomber ce match.
On avait la rage, gros, mais j'avais la rage. Et le lendemain, on dit: vas-y, on va taper les Serbes quand même et on perd 21-19 contre les Serbes, tu vois. Et laisse tomber. En plus, les Serbes, ils avaient terminé deuxième de la poule. C'est l'Ukraine qui avait terminé premier. Non, c'est l'inverse. Non.
C'est l'inverse.
Donc l'Ukraine avait fait une deuxième, donc on jouait contre l'Ukraine. Et l'Ukraine, on les avait tabassés en pré. Enfin, et le pire, c'est pareil, c'est la Lituanie. Écoute bien, l'histoire de la Coupe d'Europe. La Lituanie, on joue le Big 12. On les joue 4 fois, on les plie 4 fois. Genre, on leur a même mis un 21-8. Et j'ai dit: c'est pas bon de les jouer autant. C'est pas bon de les jouer autant. Et on les rejoue, on se fait niquer. Bon bref, donc ça c'est un gros regret, mais par contre j'ai kiffé à Paris, c'était énorme. On avait un groupe.
L'ambiance a été malade.
Ouais, on avait un groupe.
L'ambiance a été malade.
Franchement, c'était trop bien. Il y avait Charlie, Jules, Francky et moi, donc c'était cool. Et puis derrière, bah voilà, ils ont dû reconstruire. Donc Jules se blesse, Charlie lui était blessé aussi cet été pour la sélection. Voilà. Et moi à la base j'étais même pas appelé, tu vois, j'étais pas sur la liste. Et puis, bon voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, où on a communiqué, on s'est remis en lien avec Karim. Il m'a dit qu'il comptait sur moi, etc. Et que j'étais dans le top 10, donc voilà, il fallait que je sois présent. J'ai dit: ok, feu, moi, tu sais que tu m'appelles, je suis là. Et puis derrière, ben, on a fait stage à Belgrade, Big 12, et derrière, on va à la Coupe du Monde. Et là, la Coupe du Monde a été folle, en fait. Elle a été folle parce que, quelque part, je suis avec... mon poteau Léo aussi, que j'avais ramené à l'arrache quand on a gagné l'Open de France en 2020 là, à Nantes.
Oh, Léo Cavalier.
Léo Cavalier, exactement. Donc voilà. Et Francky et Alex, via l'arrêt. Voilà, et qui eux savaient que derrière eux deux, ils passaient pro en plus 3-3, donc c'était top. Et là, l'équipe est vraiment équilibrée. Elle est vraiment équilibrée. Ouais, où t'as un peu un feu follet comme moi, un électron libre, ou quand faut mettre ou être agressif, mettre des choux, je vais le faire. Et t'as des gars qui. Léo, c'est un soldat. Et Francky et Alex, qui sont de vrais joueurs, surtout les quatre, on avait quatre gars, quatre soldats qui étaient prêts à mourir, quoi, pour avoir une médaille, quoi.
Ah, pas prêt de baisser la tête.
Exactement.
C'est sûr
et
certain.
Et donc, les poules, voilà, les poules se passent correctement. On a un match coup près contre Porto Rico qu'on prend. Et là, on va en huitième contre l'Autriche, on gagne. Et là, on a notre plus gros match pour moi en quart de finale contre les Néerlandais qui sont ultra favoris. Enfin, qui sont favoris pour une médaille, parce que c'est l'équipe Amsterdam qui est trop forte, tu vois. Okay. On les avait jamais battus, okay. Et là, on fait un match de ouf. On fait 13 points, je crois.
On les défonce.
C'est ça.
Et en plus, Dom, il avait chambré de fou avec le petit là, Jesse, là, qui est un mec avec des
trucs. Petit Jesse,
qui te corde
avec les dreads qui.
Et lui m'a dit, il va te taffer. Et dès qu'on a gagné le match, moi j'étais en mission, dès qu'on a gagné le match, j'ai appelé le Dom, il était mort de rire, toi. Donc,
il a pas voulu décrocher.
Si, il a répondu, t'inquiète. mais voilà, donc du coup, nous, on savait que quoi qu'il arrive, on avait deux matchs pour faire une médaille, parce qu'on arrive en demi contre la Lituanie. Et ben voilà, la Lituanie, il arrive, et là, c'est un regret de ouf parce qu'il arrive ce qui m'arrive. C'est un truc de fou.
En plus, c'est très très moche.
Ouais, c'est ouf, mais laisse tomber. Et la cheville, elle était horrible. Hein. Elle était horrible. C'était un truc de malade. Et je sais même pas comment j'ai fait pour rejouer.
Mais j'allais dire, qu'est-ce que le mazo que tu es
j'étais obligé,
va chercher à jouer.
C'est mon pays, j'étais obligé.
Mais est-ce que t'as vu les vidéos, s'il te plaît?
Franchement, le seul match que j'ai pas revu de toute la Coupe du Monde, c'est la Lituanie. Je vais t'expliquer pourquoi. Pas pour la blessure. Je sais que c'était ouf, les gens apparemment ils devenaient fous parce qu'à un moment donné je mets un tir à deux points sur un pied et tout.
Mais c'était n'importe quoi.
Je sprintais dessus en boitant, j'essayais de faire au mieux et tout. Donc ça c'est les bons. On va en prolongation parce qu'attends, on arrive à avoir le shoot, on a le lay-up pour gagner que Léo loupe. Et derrière on va en prolongation. Non, c'était pendant la prolongation. Donc derrière ça, moi le plus gros regret que j'ai, c'était qu'en fait. Et Francky, c'est pareil, on le dit, tu vois, on a eu une interview où, en fait, et on fera pas cette erreur, c'est que Francky, il doit me virer. Et Antoine, tu peux pas, quoi. Et moi, vu que je me dis, vas-y, non, je suis là pour ça. Et en fait, de moi-même, j'aurais dû dire, hé, les gars, vas-y, Francky, finissez le match, j'ai confiance en vous, tu vois. Et c'est le côté compétiteur et de pas vouloir lâcher l'équipe.
Bien sûr.
Qui a dit, vas-y,
après,
moi, je
vif,
je peux pas. Et en fait.
C'est à vif et c'est à chaud.
Voilà.
C'est à vif et c'est à chaud.
Et en fait, j'aurais dû parce qu'ils auraient, je sais pas s'ils auraient gagné, mais au moins, on aurait eu moins de regrets, tu vois. Donc,
je peux te le dire, avec ta blessure là, je me suis dit qu'il fasse pas le con, qu'il n'aggrave pas la chose.
Ouais, bah, je l'ai aggravé grave, hein, mais bon, là,
Bah oui.
Mais
tu es
revenu très vite.
Ah non, mais même pour la remise de la médaille, t'étais en souffrance, mon pote.
Ah ouais, c'était chaud.
T'étais en souffrance. Ouais. Mais une très belle histoire la magie du 3-3 et j'espère que. Cette magie restera pendant les JO parce que.
Et le match de la troisième place, il est incroyable, quoi.
Ah, aussi celui-là. Oh là 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 là.
Le match le plus long de l'histoire du 3-3,
tu vois. Oh, mais c'était n'importe quoi. Mais on se demande comment vous pouvez jouer encore avec cette fatigue qu'il y a à ce moment.
Mais les gars, moi j'avais tout en tête, tu vois. Mais les gars, ils ont dû revoir le match tellement. Et il y a plein de trucs qu'ils se rappelaient pas, en fait. Tellement il y avait de l'interdit. Ils étaient harassés, tu vois. Donc, c'était fou. C'était fou et c'est là où tu vois, comme vous parlez de, tu vois, d'être un vrai bowler, d'être un machin. Et en fait, c'est là où je me dis, en fait, moi, je me considère comme ça parce que, un, j'aime trop ça. Et deux, comme tu le dis, je me rends pas compte sur le moment, mais avec du recul, tu vois, ma mère, elle me disait, mais t'es complètement fou d'avoir joué sur ta cheville. Elle était énorme, elle gonflait. Quand il m'a enlevé la chaussure, elle gonflait. La kiné belge a dit, non, monsieur, vous pouvez pas. Je dis, hey, strap ça, on y va. Et c'est là où tu te dis que, en fait, le basket, c'est la vie,
après,
en fait.
C'est the love of the game, c'est exactement
c'est incroyable,
ça.
Quoi,
c'est le basket. Le basket fait ce qu'on est aujourd'hui. Surtout, vas-y, je vais parler comme un vieux, les générations old school. Avec toutes ces valeurs que tu avais pu citer avant, autour du professionnalisme, se rapprocher des gens, combattre, aller à la guerre avec ses potes, tous ces trucs-là qui font que quand tu prends du recul et que tu te rappelles ces histoires-là, elles sont toutes magnifiques.
Ouais, c'est dingo. C'est dingo.
Une once de douleur, mais elles sont tout le temps magnifiques. Mmh. Et tu as parlé d'un truc tout à l'heure en introduction où tu disais que. La jeunesse avait un peu de mal à comprendre cette manière de réagir au niveau de l'aîné qui va te piquer pour que tu prouves et non prendre ça négativement. Tu vois ce que je veux
ouais,
dire?
Ouais, ils le prennent trop mal, tu vois. Il y en a beaucoup qui le prennent mal ou qui, après, c'est peut-être aussi la façon de leur dire. Mais moi, personne n'a pris de pincettes avec. Personne n'a pris de pincettes avec moi, jamais, tu vois. Alors peut-être parce qu'ils savaient que
je. T'étais à bonne école, t'avais Vincent Mazingue.
Hein. Ouais, mais après.
C'est pas lui qui allait prendre des pincettes.
Non, c'est clair.
Hein.
Après, peut-être parce qu'ils savaient aussi que j'avais déjà une grande gueule. Donc, même jeune, ça c'est carré. Enfin, je suis né comme ça. Donc, bah, ça n'a rien à voir. Mais donc, ça déjà, quand t'es jeune et que tu l'ouvres un peu, à rigoler tout le temps, à faire le con, bon, bah, des fois, ça passe pas. Donc, ça, déjà, ils me remettaient en place. Mais au-delà de ça, parce qu'ils ont quand même été cool par rapport à ça, au-delà de ça. En fait, c'est peut-être qu'ils ont reconnu que j'avais aussi le caractère pour l'encaisser. Mais
bah, clairement.
Et parce qu'en plus, c'est vrai. Donc, tu vois, moi, j'ai toujours chambré, rigolé et tout. Faut être capable de recevoir derrière. Mais ça m'a aidé. Ah. Ça m'a piqué. Et
tu sais ce qui va se passer. Tu vas te prendre un écran dans le dos.
Exactement.
Un, deux, trois écrans dans le dos. Et clac, clac. Mais ils vont se retourner, ils vont rigoler.
Voilà,
bien
sûr. C'est un peu ça.
Mais c'est le game.
Mais aujourd'hui, tu fais ça à un jeune. Déjà, en plus, c'est pas que le jeune. Parce que les jeunes sont ultra protégés aussi. Tu vois, de plus en plus, les coachs. Non, mais tu comprends. Non, mais. Hey. Au bout d'un moment, c'est toi et ton game, c'est toi et avoir faim. C'est une carrière, c'est pas long. Et tu sais quoi, et c'est ce que je dis, c'est encore plus maintenant. Parce que moi, je me dis, je vais avoir 35, j'ai envie de jouer le plus longtemps possible. Je me sens super bien physiquement, mentalement, etc. J'aime trop le basket. Et justement, tu kiffes encore plus, je pense, à mon âge, parce que tu sais que tu en as plus derrière que devant, en fait. Et donc, tu vois.
Écoute, moi, après, à ma hauteur, j'ai arrêté en N3 à 42 ans.
Ouais, tu vois.
J'ai arrêté à 42 ans. Et encore, tu sais ce que je me disais ? J'arrêterai le jour où un jeune me mettra un coup de pied au cul pour que je sorte.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, du genre, je tiens pas à la séance d'entraînement.
Ouais.
Mais à la fin, tu dis, bon, vas-y, il faut être quand même sage.
Après, il y a physique et il y a mental aussi. Après, tu peux avoir une illusion mentale ou être passé à autre chose, c'est-à-dire vouloir coacher.
Mentalement, j'étais encore prêt. Mais bon. Des fois, faut que l'histoire se fasse. Et pour que l'histoire se fasse, il faut que tu t'effaces un peu.
Ouais, bien
et,
sûr.
Je préférais leur laisser l'histoire. Mais je valide totalement ta mentalité, en fait.
Donc, ouais. Après, j'ai envie de te dire que c'est une éducation. Mon père, il a joué au basket. Il était en National 1A et 1B à l'époque. C'est un mec qui était un peu voilà, costaud, qui jouait dur, qui avait cette mentalité-là aussi, pardon.
Les chiens font pas des chiens.
Voilà, donc après tu te construis, avec les étapes de ta vie, avec ce qui peut t'arriver, avec il y a plein de trucs, tu vois, et ce qui est important, c'est de rester, je pense, fidèle à soi-même. Mais aujourd'hui, moi, je me suis jamais, entre parenthèses, prostitué, jamais, voilà, on a voulu me mettre une étiquette, un machin, pas grave, t'avances quand même. Et c'est dur. Et c'est dur parce que ça demande des efforts et il faut être costaud mentalement et se sentir bien. Donc, et être bien entouré aussi, j'ai envie de te dire. Bien conseillé, bien entouré. Moi, mon agent, c'est mon agent depuis que j'ai 19 ans. Quoi. Tu vois, ça n'a pas bougé. J'ai pas changé 4-5 fois, j'ai pas machin, j'ai pas truc, tu vois. C'est mon ami, il était à mon mariage, pas changé d'agent, donc tu vois, il y a plein de trucs comme ça, comme tu dis, tu fais pas moins de 3 ans dans chaque club, voilà, donc il y a plein de trucs, écoute, à voir, et avec l'émergence du 3-3, j'ai envie de te dire que ça ouvre aussi d'autres portes, tu vois,
t'as d'autres chemins pour représenter ta nation, ton pays,
et même jouer au basket de plus en plus, tu vois,
et jouer au basket,
ça moi c'est un truc qui m'attire, tu vois, c'est un truc qui m'attire énormément et en ce moment ça m'attire vraiment beaucoup parce que j'ai suivi mais tellement fort la Team Paris là toute l'année et laisse tomber, je les avais souvent au téléphone, on échangeait et j'ai l'impression d'avoir vécu un truc avec eux et j'ai dit putain je les envie des fois, tu vois, ils se barrent à l'opposé de à l'autre bout du monde machin,
j'ai eu Alex Villarreal il y a un mois sur le podcast,
ouais.
Je l'avais vu à ses débuts au 3-3 et je l'ai revu
l'an
dernier. Ça n'a rien à voir. J'ai dit, t'as pris combien de kilos de muscle ?
Ouais, c'est un monstre. Et il est devenu.
J'ai dit, c'est devenu un monstre. Et je lui ai dit, vous avez été kiffant, les gars.
Ouais,
vous avez été kiffant. Toi, Antoine, vous avez été kiffant. Vous nous avez fait vibrer. Vous avez mis la France sur la carte du basket. Je parle des gars, mais je parle évidemment aussi des filles qui ont marché.
Ouais,
sur
les
tout
filles,
le monde.
Les ouais, mais c'est indécent, même. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à la Coupe du Monde, on était tous les 8 ensemble et il y a un truc à jamais qui s'est forgé, tu vois. Et elle, c'était un truc de fou aussi. C'est un truc de hyper d'air contre les States dans l'ampoule et quand même au bout. Voilà, laisse tomber. Orti, Letty, Mep et Mimi, c'était un truc de fou. Et derrière, elles font le doublé avec la Coupe d'Europe en changeant qu'une joueuse, quoi, quelque part, avec Marie qui remplace Mep. Mais,
Marie Pagès.
Ouais. Mais franchement. C'est là où moi, je me dis, franchement, ça m'a piqué de fou parce que je regarde beaucoup, de plus en plus, tu vois. Des fois, je m'arrêtais je mettais des alarmes cette année pour regarder à certaines heures les matchs des mecs sur le World Tour, tu vois, pour un peu suivre.
Oh. Mais clairement, mais tu vois, c'est là que tu vois d'autant plus la magie du sport.
Ouais, c'est un truc de fou.
Les liens qui se créent, franchement, c'était
exactement.
C'était vraiment kiffant.
Non, franchement, c'est.
Je vais te poser une.
C'est bien. Dis-moi.
Je vais te poser une question, une petite dernière question avant d'aller peut-être laisser te reposer. Du coup, du haut de la probée, la question, je la connais. Cette partie de la question, je la connais un peu. Tu continues à bouffer du basket à tout va, à regarder, je suppose.
Ouais, ouais. Alors, ça dépend quoi, mais ouais, je regarde pas mal.
Bah, Euroleague, Betclic.
Betclic, je regarde Le Mans. Et je regarde. Ouais. Je regarde Le Mans, je regarde Victor un peu, mais pas trop parce que c'est pas. Enfin, il est. Enfin, moi, je kiffe trop parce que c'est énorme pour la France et c'est top.
On est d'accord.
Et que voilà, c'est top. Mais le jeu en soi pratiqué, c'est de la G-League un peu Paris, quoi. C'est très axé là-dessus, donc je m'identifie moins, mais je le regarde. Et je regarde Limoges pour mon pote, le petit gros Wilfried Yeguété. Je regarde un peu Limoges. Et après, non, je regarde ouais, l'Euroleague. La NBA, pas du tout. Franchement, ça me saoule, en fait.
Non,
c'est too much.
La NBA, faut regarder les playoffs.
Ouais, faut regarder les playoffs. C'est too much. Et le 3-3, quoi. Et le 3-3. Voilà.
Ah, j'allais te poser une question sur un joueur qui fait son championnat en Betclic. Mais qu'on ne parle pas tant que ça. Mm. C'était Nadir Ifi.
J'étais sûr que t'allais dire ça. Écoute, moi déjà, lui je le connais peu. Parce que c'est vraiment un petit. Moi, la dernière année, là, il y a 2 ans, il ne jouait pas du tout en pro. Quand j'étais avec Le Mans. Mais c'est top. C'est top parce que. T'as vu comment il joue? En plus, c'est un gaucher. Donc ça,
c'est un gaucher.
Mais il joue avec une telle spontanéité, confiance et la fraîcheur, quoi. Franchement, moi, le peu de. Alors, j'ai vu des bouts de match, j'ai vu des highlights. Franchement, il joue à l'instinct beaucoup. Et j'adore. Et je pense. Alors, je le connais pas. Je pense que c'est un gamin qui, quand même, qui a la tête sur les épaules, qui comprend. Et même vu comment il joue, les short rolls, les machins, les kicks. Il défend, c'est un mec, ça doit être un gamin intelligent en plus, mais surtout, moi c'est surtout sa spontanéité, le coup de rein qu'il a et tout, je kiffe, tu vois. Donc je l'ai pas vu jouer au hockey, j'ai pas regardé, enfin j'étais pas, mais par contre, ouais, c'est. Puis il a fait un petit truc de 3-3, là, il a fait les Jeux méditerranéens, je crois.
Avec l'Algérie. Ouais.
Donc,
c'est un gamin qui kiffe le basketball, mais c'était vraiment pour montrer l'accent sur un jeune. Qui est passé au travers des centres de formation, qui a joué en National 3.
Et qui je savais même pas. Tu vois, je le connais juste du centre du truc Espoir au Portel. Tu vois, je savais même pas qu'il avait joué en N3.
Il a joué en N3 et là aujourd'hui, c'est pour dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour réaliser ses rêves.
Pas du tout.
Et que il faut juste saisir les opportunités et continuer à travailler.
Ouais, et puis c'est jamais fini, tu vois, c'est jamais fini. Tu vois, on parlait des finales, des trucs, des machins, c'est pas fini, tu vois, moi dans ma tête, c'est pas fini, hein. Laisse tomber. Tant que t'es comme ça...
Mais on veut pas que ce soit fini.
c'est pas fini, tu vois, que ce soit, même pour Nadir, c'est... je reprends la phrase d'un gars connu qui dit, hey, tu me parles pas d'âge.
Ah.
Et lui, c'est le cas.
Il n'y a que le jeu qui parle.
Exactement. Après, attention, il y a un truc très important. Et nous, les joueurs, on le sait, mais les gens autour ont des fois du mal. Il faut être au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire qu'en gros, un joueur, d'une année à une autre, il peut être très fort dans un club. Je dirais très fort à Paris, le Valois, par exemple, enfin, au Métropolitain. Et l'année d'après, il signe à Pau. Et parce que le système, le coach, l'homme n'est pas bon, il est méconnaissable. Où il est peu utilisé. Et ça, les jeunes, et moi, je le répète, j'ai fait l'erreur une fois en signant derrière Karim Reid avec un coach avec qui ça passait pas du tout, qui était Borg, à Vichy. Et c'est vraiment, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est vraiment s'entourer pour trouver le meilleur endroit où se développer et jouer.
J'ai envie de te dire qu'il y a un joueur, Il y a un joueur qui s'est retrouvé dans cette situation-là chez vous cette année.
Tu parles chez Samir, Samir. Exactement. Samir, exactement. C'est l'exemple. Voilà. Après, il y a des choses. Alors, je ne sais pas pour Samir, mais après, il y a des joueurs qui... Il y a aussi un aspect pécunier. Si un joueur, il joue, je te dis, à Pau, il est à 5 000 par mois, il fait une bête de saison, il est All-Star, et que Limoges, enfin, je ne dois pas Limoges, je sais pas, Gravelines lui propose le double ou le triple, même si ce n'est pas le bon spot, qui fait, bah, tu sais, des fois, tu y vas, quoi. C'est une carrière, ça ne dure pas 15 ans.
Saisir,
tu vois,
bien sûr, ça ne dure pas 15 ans.
Il y a l'aspect financier, mais si jamais tu peux toujours prioriser l'aspect sportif, fais-le, peu importe ton âge. Et oui, Samir, ça l'est en l'occurrence, le côté sportif. C'est un gars de ouf. Moi, j'ai trop la rage qu'il soit parti, parce qu'en plus, sur la durée de la saison, je pense qu'il aurait joué, on aurait eu besoin de lui. Mais c'est sûr. Mais il pouvait pas faire autrement. Il a 24 ans. Il se retrouve un peu dans le truc où c'est un peu la même situation quand moi je me fais. Il voulait me couper à Vichy et que je pouvais aller en playoff au Mans et que j'ai choisi d'aller en playoff au Mans. C'est la même chose.
Ouais,
je m'en fous de l'argent. J'ai envie de jouer.
Je veux jouer.
Donc c'est marrant. C'est un peu la même situation parce qu'en plus, tu vois, il va avoir un petit et tout. Comme moi à l'époque, c'est exactement la même timeline. Tu vois, c'était rigolo. Mais en gros, oui, c'est ça. Et ça, c'est le plus important. C'est va quelque part où t'es voulu, tu vois, jusqu'à un certain âge. Après, au bout d'un moment, ben voilà, quand tu vieillis, peut-être que tu te dis, vas-y, je prends les contrats, je sais pas, chacun a sa perception du truc, mais il faut que tu ailles quelque part où t'es voulu et où tu vas être utilisé, quoi, tu vois.
Ouais, je vois. Donc, allez, dernière question. Faut que tu me répondes à ça. Pourquoi tu dis, je ne rentre pas dans le moule du basketball français?
Alors ça, je l'ai dit il y a... C'est rigolo parce que j'ai lu l'article, ça devait être en 2015-2016.
Exactement.
Donc c'était il y a 6-7 ans, tu vois.
Ouais.
Donc, non, mais à l'époque...
Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu n'es plus dans le moule, que tu ne rentres toujours pas dans le moule du basketball français? C'est plutôt ça, ma question.
Non, disons que j'ai forcé le truc, en fait. C'est-à-dire que j'y suis rentré, forcément. Aujourd'hui,
t'as braqué.
Non, mais aujourd'hui, j'ai braqué. Non, mais dans le sens où, ben, aujourd'hui, voilà, ma carrière, je l'ai faite. Et elle est pas finie. Crois-moi, j'ai faim. Mais bon, ça, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais en fait, ouais, à un moment donné, à cette époque, quand j'ai déclaré ça, c'est que ben, ça me rendait fou, en fait, par exemple. Ce qui me rendait fou, c'est d'être performant comme je l'étais. Et pas être appelé sur les fenêtres internationales. Parce qu'à l'époque, tu sais, par exemple, t'avais Joe, t'avais Axel, mais qui était pas au niveau d'Axel quand il était à Dijon. Tout. Et moi, j'étais en pleine force d'âge, j'étais à Orléans, c'était mon ami All-Star, etc. Et même l'année d'avant, j'étais au Mans, je taffais de ouf, j'étais trop bien, tu vois. Mais c'est là où j'avais dit, mais en fait, je rentre pas dans le moule parce que je dis les choses, parce que j'ouvre ma gueule, parce que. Quand je suis sur le terrain, je suis à fond, je chambre, ça m'arrive de parler, je me laisse pas faire. Mais en vrai, quand je dis basket du monde français, mais moi, tu me mets aux États-Unis avec cette mentalité-là, mais ils kiffent de ouf. C'est une histoire de mentalité, en fait. Ils kiffent de malade, ouais. Parce qu'ils kiffent un peu.
C'est le mindset,
tu vois.
Ils kiffent l'arrogance, mais prouvé sur le terrain.
Voilà, et moi, j'ai jamais été. On a tous un moment donné où on croit moins en soi, etc. Mais par le travail, en fait, c'était plus de la confiance que de l'arrogance. Tu parles aux gens, moi, je suis respectueux, je suis capable de parler basket avec un gars de N2, de N3, de N1, je respecterai tout le temps les gars. Toi, je vais nommer un gars contre qui j'ai joué, là, j'ai découvert l'année dernière, qui s'appelle Tommy Gezala, meneur gaucher d'Evreux, qui lui, alors je l'ai déchambré, j'ai dit t'es vendeur de tacos il y a quelques années, mais le gars, il a la mentalité, tu peux être un killer et un chien et jouer en National 1, tu vois. C'est une histoire de mentalité. Non. Et après, c'est les opportunités qui font que tu vas plus haut ou pas aussi. Et ton talent aussi, des fois, on atteint tous nos limites, par exemple, un très bon joueur de N1 peut peut-être pas jouer en Pro B, tu vois. Mais après, le moule du basket français à l'époque, c'était surtout ça. C'était de dire, vas-y, il faut que je fasse quoi pour pouvoir au moins essayer d'être sur les... Tu vois, j'avais en moi une envie, et c'est très personnel, hein, c'est un truc qui était ancré en moi, et c'est pour ça que c'est si spécial pour moi de jouer en 3-3 en équipe de France. C'est un truc très perso. C'est que c'était en moi, c'était dans les tripes de vouloir faire partie de l'équipe de France, de représenter mon pays. Et donc cette frustration, bah, elle a été lâchée là-dessus. Et je ne regrette pas ce que j'ai dit. Mais si tu me dis maintenant si c'est la même chose, je vais te dire que non. Je vais te dire que non, parce que malgré tout, je sais pas si je suis rentré dans le moule ou si j'ai fait mon propre moule et je me suis mis à côté d'un autre moule du basket français, mais, j'ai fait mon truc.
Tu t'es fait ton moule.
Voilà.
T'as fait ton truc.
Ouais, j'ai fait mon truc.
T'as fait ton
tout
truc.
En restant respectueux.
Et on l'a vu.
Donc,
et on l'a vu.
Donc voilà, donc écoute, c'est vraiment. Et c'est cool. Et quand tu vois des mecs comme. Tu vois, je joue avec Mike, j'ai la balle cette année, qui a 40 ans, qui est encore performant et tout, c'est un truc de fou, quoi.
Lui, il a encore faim.
Ouais,
il aime ça.
Il aime trop.
Crois, l'amour du game.
Mais on s'entraîne tout le temps. On s'entraîne tout le temps. En fait. Il est plus vieux, là, cette année. On s'entraîne au maximum. Alors, on a des petits pépins. Des fois, tu vois, mais quand tu t'entraînes, t'es à fond. Et c'est trop bien, quoi. Tu vois
bah, en tout cas, merci beaucoup, Antoine, de nous avoir accordé tout ce temps.
De rien, c'est
franchement, c'est le kiff d'avoir revécu tous ces moments avec toi. J'espère que nos auditeurs prendront un plaisir monstre à écouter ce podcast. J'ai une petite dédicace de mon graphiste qui t'a vu dans un salon du tatouage, parce qu'il m'a fait comprendre que tu étais fan de tatouage.
Ouais, un petit peu, ouais.
Donc voilà, donc j'ai fait cette petite dédicace et je te souhaite bon match demain.
Bah, écoute, merci et puis à la prochaine, quoi.
Avec plaisir, en tout cas. Salut, ciao, bonne soirée. C'était Smooth l'artificier, accompagné d'Antoine Eto'o pour Off Court. Ciao!